Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Oui, Rotten sans flamme en mode Ligue des Champions. On va se régaler encore toute la soirée, toute l'émission, la soirée. C'est sur RMC que ça se passe. Putain, j'ai du mal, j'ai fait une Didier Deschamps. Écoutez, on va passer deux heures fantastiques. C'est pas parce que j'ai bafouillé sur le RMC que ça va pas bien aller, parce qu'il y a une équipe top comme tous les jours dans Rotten sans flamme. On est bien entouré. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va, je fais rire mon producteur, oui. Donc il est mort de rire.
Merci pour ce bonbon, ça nous servira pour les prods.
Oui, exactement. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Pourtant, il n'est pas de sortie, Didier, aujourd'hui. Ah non. Non, il regarde les matchs. C'est nectionneur. Ouais, On est avec Christophe Dugarry. Salut, Dugas.
Salut Jérôme, c'était génial, moi j'ai trouvé ça super. Très belle introduction, moi je t'ai trouvé excellent, tu t'es repris comme il fallait. Je te show must go on.
Ouais.
Voilà. Voilà. T'as pas été déstabilisé,
non, j'ai trouvé ça bien. Pas du tout. Bon, mais en même temps, on est habitué. Hein. On est habitué quand on fait
C'est difficile, voilà. C'est très difficile ce que tu fais. Ne sous-estimons pas tout ce que tu fais, c'est
ça, c'est sûr.
Bon, voilà, bravo, c'est jamais facile. Bravo, c'est toujours genre... dire, c'est pas si facile que ça. Je le sais, je l'ai fait pas mal.
Oui, tu le sais, du gars.
Ah, ok, oui.
Écoute, il y en a qu'il le sait pas, et je sais qu'il a bien rigolé, ouais. C'est Steve Savidan. Salut Stevie.
Oui, la nature au rendu vide, faites gaffe quand même. Monsieur Rotten, tu es sur la sellette.
Oui, toi t'es à l'affût. Hein.
Exactement, et c'est officiel.
Je n'ai plus à me cacher.
Non, il se cache
on
plus.
On remplace toujours des amis.
Ah, depuis 3 ans, il se cache pas, du gars. Ouais. Il essaye. Hein, mais...
il est là tous les étés. Hein. C'est comme les jeunes qui intègrent.
Je serais curieux de voir ce que ça peut donner.
Pas sur cette tranche horaire. Tu sais quoi, du gars, pas sur cette tranche horaire. Beaucoup plus tard, s'il te plaît. Plus tard.
Et si ça vous intéresse, si ça vous dit, on peut demander à Steve de faire le début d'heure à 19h. Il peut reprendre si ça vous dit. Ouais. Si t'es courageux, Steve.
Allez. Écoute-moi bien, c'est pas une question de courage déjà.
Alors,
c'est une question de courage.
Jérôme, tu veux bien ou pas?
Mais comme dit Duga, franchement, il y a beaucoup de haters là sur les réseaux sociaux. Ils bombardent les gens qui prennent des émissions des anciens sportifs. Hein. Honnêtement, c'est un réel métier, c'est une réelle compétence que Duga. Ah, parce qu'il a quand même animé, et que Jérôme a, et que d'autres amis consultants, anciens sportifs ont des émissions radio ou télé. Honnêtement, c'est un métier. Et c'est pas une question d'avis.
Okay.
C'est une question d'animation.
Et tu le feras à 19h ou pas alors?
Non, franchement, je veux pas, tu sais, comme ça en début de semaine.
Ah, il faut qu'il se prépare. Ah, d'accord. Qu'il se prépare.
Imagine, il y a pic d'audience.
Parce que Karim écoute et il
Karim
se dit. Karim,
imagine.
Bon, ne prenons pas ce risque, vous avez raison.
Sur WhatsApp, le schnorr de la France qui se met à écouter.
Ah, ouais. Alors, grand Rotten sans flamme avec un grand moment à 18h30 sur RMC, le procès de Christophe Dugarry. Eh oui, Christophe sera l'accusé du soir.
Je vous ai écouté hier, j'étais dans la voiture. Et je me dis, tout le monde se plaignait, un auditeur, Eric Dimeco, se plaignait que je ne sois pas là après l'excellent match de Marseille. Donc écoute, la mardi. Il y a mon procès, écoute, je vais essayer de me défendre.
Ah, ça va être excellent.
Les arguments en ma possession.
Ouais, on a essayé
Dugarry
de faire venir.
Trop dur avec
Dugarry, on a essayé de faire venir Antonio Cassano, mais pour l'instant, il n'a pas répondu à mon invitation.
Je sais pas qui c'est.
Un nouvel ami, on t'en parlera. T'inquiète pas.
Je connais pas ce monsieur.
À 18h. Oui, certainement. À 18h45, allô Jérôme. Forcément, on a convoqué ce soir Ludovic Joly, héros comme Jérôme de la campagne européenne de Monaco en 2004. On va revenir sur ce match aller Real-Monaco, la victoire du Real 4-2. Un grand moment partagé par Jérôme et Ludo. Donc soyez là également à 18h45. Et puis à 19h, on parlera de la crise au Real. Est-ce que le modèle Pérez est périmé? On vous attend au 32-16 pour en débattre avec nous. On fera le point sur tout ce dossier. Exactement. Tu seras présent d'une certaine façon dès le début de ce talk. Et on sera avec Edgar Groslot, donc à partir de 19h. Et puis l'événement sur RMC aujourd'hui, c'est que vous allez remporter vos places de Ligue des Champions pour PSG Newcastle, Jérôme.
La semaine prochaine, ce
sera le dernier match de la phase de Ligue des Champions, donc le 28 janvier, 21h au Parc des Princes. Vous assisterez aux émissions d'RMC avant le match, ensuite direction le Parc des Princes et retour à RMC dans les coulisses de l'after pour débriefer le match en direct. Dès que vous entendrez ce signal sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16.
Match décisif pour le top 8. Hein.
PSG au 7-32-16.
Ah oui, celui-là, il faut le gagner.
Décisif, exactement. Ah ouais. On suivra ça. Allez, 18h05 sur RMC. Il y a un an, tout a basculé pour ce PSG, justement.
Je voulais juste avancer.
Un match de gala et de la peur à la fois pour Paris. Le champion de France veut s'extirper de sa 26e place éliminatoire au classement de Ligue des Champions.
Et le but pour le Paris Saint-Germain qui égalise.
À travers ce genre de prestations, ça montre à quel point le projet est validé.
Et la tête plongeante de Joao Neves.
Hier, moi, je suis impressionné de leur performance, du calme qu'ils ont mis en place.
Doué, faut y aller. Doué est ingénieux, le doublé, ça fait 3-0. Les petits pas et la levée de la Ligue des Champions.
Aucun regret sur le mercato d'été.
Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
Dembélé tout seul, Dembélé qui va passer. Une fois, deux fois la tentative de l'homme. Quel but, quel but. Signé Ousmane Dembélé.
Et oui, tous les fans de ce Paris Saint-Germain se souviennent du 22 janvier 2025. Paris au bord de l'élimination en Ligue des Champions qui renverse Manchester City, victoire 4-2 alors que les Parisiens étaient menés 2-0. C'était le point de départ d'une deuxième partie de saison historique. Alors cette année, Paris est bien mieux engagé en Coupe d'Europe, justement, troisième de saison régulière. Paris ferait un grand pas vers le top 8 en cas de victoire. Le match ce soir, c'est à Lisbonne face au Sporting Portugal. Et en championnat, on rappelle que le PSG est deuxième à un point du LOSC. Paris éliminé de la Coupe de France par le Paris FC. Parlons de tout cela avec Arthur Perrault qui est à Lisbonne, justement, pour RMC Sport. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Bonsoir.
Salut
Arthur.
Bon, on y est cette fois, Arthur. Les choses sérieuses vont enfin commencer pour le PSG.
Oui, pour un PSG bien loin en Ligue des Champions des montagnes russes de la saison dernière, vous l'avez dit, le club de la capitale a l'occasion de terminer en tête du classement de la phase de Ligue, s'il ne fait pas de bêtises lors des deux derniers matchs évidemment. L'entraîneur Luis Enrique sait que tout se joue maintenant.
On est dans la partie importante de la saison, on est en train de récupérer des joueurs blessés et je pense que c'est le meilleur moment de la saison. Je pense que c'est un moment important dans la Champions League parce qu'il arrive les deux derniers matchs. L'objectif, c'est de gagner demain et avoir pratiquement assuré la qualification à les huitièmes.
Avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, le PSG est actuellement 3e. Comment il peut donc s'éviter les barrages? La saison dernière, au même moment de l'année, le bilan était bien plus compliqué avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. En championnat, en revanche, Paris était leader avec 14 succès et 4 nuls, avec 9 points d'avance sur son dauphin marseillais. 46 points au total contre 42 aujourd'hui, messieurs.
Merci Arthur, tu seras au commentaire ce soir donc ce Sporting Portugal Paris Saint-Germain 21h sur RMC, c'est la une de Rotten sans flamme messieurs. Est-ce que le PSG est en avance par rapport à la saison dernière 32-16 pour participer avec nous?
Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau comptable en Ligue des Champions, ils sont en avance hein. L'année dernière, c'était ils étaient au bord du précipice, ils ont failli ne pas se qualifier. Là, on parlait même pas du top 8 ou du top 4 hein, on parlait d'arriver pour faire les barrages déjà, réussir à être dans les 24, ce qui était problématique au niveau comptable. Mais après, je vais te dire, c'est un peu contradictoire ce que je vais te dire, mais l'année dernière, au niveau comptable, ils sont en avance. Mais je trouve que cette année, ils sont en avance par rapport à l'année dernière. Mais je trouve qu'en termes de contenu de match, de dynamique collective, de dynamique de club, l'année dernière, il y avait le rêve de gagner cette Ligue des Champions. En effet, il faut la digérer, c'est pas facile. Moi,
encore assumé à cette période de l'année. Hein.
Oui, du moins qui n'était pas assumé, oui. Et ils ne pouvaient pas te dire quand ils sont 28e au classement ou 25e à la limite de se faire éliminer sur la première phase de Ligue des Champions. Ils ne vont pas t'annoncer qu'ils veulent gagner absolument la Ligue des Champions, ça me paraît logique.
Enfin, il y a un peu plus d'un an, tu étais au centre d'entraînement à l'inauguration et le président Nasser Al Khelaïfi t'avait dit bon, la Ligue des Champions, la victoire, c'est plus l'objectif.
C'était un objectif à moyen terme, mais pas à court terme comme les autres années, parce qu'ils ont fait une erreur à chaque fois d'annoncer. lancé avec un recrutement flamboyant tous les ans, de dire oui, c'est cette année, on va la gagner, on va la gagner. Puis à l'arrivée, tu prends clac. Donc à un moment, ils ont changé de stratégie. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais avec une stratégie de joueurs moins expérimentés, des plus jeunes qui sont inexpérimentés au niveau de la Ligue des Champions, parce que malgré tout, depuis deux ans, il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert la Ligue des Champions avec le PSG. Et en deux ans, en effet, avec Luis Enrique, avec
Deux ans, il y a de très gros joueurs qui sont partis du PSG.
En plus, non, mais parce que la stratégie et la politique du club étaient différentes. Donc, ça leur a donné raison l'année dernière, mais malgré tout, moi, je reste persuadé. C'est pour ça que l'année dernière, je les défendais, pas juste parce que je suis amoureux du Paris Saint-Germain et ceci, je suis un ancien joueur, je suis un nanan, mais pas, rien à voir. Moi, j'ai essayé. Non, mais rien à voir. En effet, quand tu connais les gens, tu mets un peu les formes sur les critiques, mais ça m'a jamais empêché d'être critique. Moi, l'année dernière, je voyais des choses positives sur beaucoup de matchs qu'ils ont perdus en manque d'efficacité. L'efficacité, faut aller la corriger. Ça, je suis pas magicien pour savoir qu'en l'espace de quelques semaines, bah, il y a des joueurs qui sont devenus stratosphériques, à l'image de Dembélé qui a été par la suite Ballon d'Or. Et c'est vrai que c'était difficile début janvier d'imaginer Dembélé Ballon d'Or en fin d'année et le PSG gagnant de la Ligue des Champions. Mais pour moi, l'année dernière, ils étaient en avance par rapport à cette année. Cette année, pour moi, il y a trop de piqûres de rappel. Déjà parce qu'il y a beaucoup de blessures, parce que il y a une dynamique de groupe qui est pas la même, une dynamique de club qui est pas la même non plus. Où on a l'impression que, et encore une fois, ça peut se comprendre, qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, même s'ils veulent faire le doublé. C'est pas la même adrénaline quand tu prépares les matchs de Ligue des Champions, et surtout la même force collective. Et c'est pour ça que Luis Enrique s'est retrouvé un petit peu en difficulté à mettre des plus jeunes. On a vu par moment, alors des exploits, ils ont gagné à Barcelone, mais après il y a eu des claques, quelques claques Bayern. Reçues. Surtout en championnat, avec des mauvais matchs, même des victoires courtes ou des matchs nuls décevants. La grosse claque reçue en effet à domicile contre le Bayern, où là on a vu un écart entre deux clubs qu'il n'avait pas et qui n'existait pas l'année dernière. Donc oui, pour moi, il y a encore trop piqûres de rappel. Rappelle-toi, avant ce match de Lille vendredi dernier, j'étais au parc et franchement, moi ils m'ont rassuré sur la deuxième mi-temps. La première, elle était encore dans la lignée des dernières prestations. La deuxième est très bonne. Donc j'espère que ce soir, ils vont être dans la progression de cette deuxième mi-temps contre Lille. Parce que s'il y a encore une piqûre de rappel aujourd'hui, en se disant « Ah ben oui, mais il y a telle blessure, ah puis lui, il n'est pas encore en forme, lui, ceci, cela », attention, parce que là, tu prends du retard. Tu vas être qualifié en Ligue des Champions. Mais il y a des équipes qui progressent, et qui progressent très vite, et qui sont passées devant toi. Donc ça, ouais. Aujourd'hui, il faut aller à l'encontre de ça. Mais pour moi, bon. Je te le dis et je finis là-dessus, les trois premiers matchs de l'année, ils m'ont un peu inquiété. Les deux matchs contre le PFC, la défaite en Coupe de France et le match de championnat, même si tu as gagné, la prestation contre l'Olympique de Marseille, franchement, elle était plus que moyenne, et pourtant ils ont gagné, mais ça m'a inquiété. Après, est-ce que la deuxième mi-temps contre Lille est rassurante? Je l'espère pour le PSG.
Duga, est-ce que le PSG est en avance alors?
En avance par rapport à la saison dernière, oui. Oui, si on doit se fier au calendrier. Par contre, est en retard par rapport à ce qu'ils ont démontré sur les 3-4 derniers mois de la saison dernière. Cette équipe est moins dominatrice. Ça me paraît être assez évident. Cette équipe est moins performante individuellement. Alors tu peux l'expliquer par plein des blessures, des méformes, pas de repos, la Coupe du Monde des clubs. Tu peux l'expliquer, mais c'est un constat que l'on peut faire aujourd'hui des joueurs moins performants. Je pense à Barcola, je pense à Kvaratskhelia, je pense à Vitinha, que je trouve un petit peu moins bien.
À Neves aussi, ouais.
Moins performant. Neves également moins performant. Blessé également. La blessure d'Hakimi, les blessures d'hiver. Bon, voilà. Il y a tout un tas d'explications. Je la trouve collectivement moins bien huilée, moins bonne dans notamment son contre-pressing qui a été une des grandes forces ce Paris Saint-Germain là. C'était ce contre-pressing et ce pressing avec ce Dembélé. Alors ça va aussi aider bizarrement et paradoxalement le retour de Dembélé va aider le Paris Saint-Germain dans son pressing et dans son contre-pressing, parce que quand vous avez un joueur comme Dembélé avec sa vitesse qui déclenche le pressing avec un sprint digne de Usain Bolt ou presque, je peux vous garantir que quand t'es défenseur et quand t'as les balles dans les pieds, tu commences à trembler et t'hésites à deux fois avant de relancer tranquillement. Donc ça va aussi aider le Paris Saint-Germain dans son jeu collectif, ce retour de Dembélé, au-delà de ses buts et de son efficacité. Mais il faut
il va falloir que le Paris Saint-Germain retrouve quand même ses forces là. Ce contre-pressing qui a du mal. Alors, c'était mieux face à Lille. D'ailleurs, ils ont marqué.
Ouais, c'est vrai que la deuxième mi-temps est.
C'était mieux. Ouais. J'ai retrouvé un peu de ce, de l'efficacité de ce contre-pressing, de ses jambes, parce qu'il faut des jambes, il faut de l'intensité pour faire ce contre-pressing. Et j'ai retrouvé un peu de ses jambes, de ce physique, de cette intensité dans ce contre-pressing que qui me manquait, voilà, jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'était voulu, involontaire ou pas? J'en sais rien. Donc, voilà, je reste moi optimiste parce qu'on peut aussi rapidement le retrouver. Mais, on est loin. Du Paris Saint-Germain, aussi dominateur et meilleure équipe du monde que l'on a pu voir en fin de saison dernière.
Ouais, en mars, avril, mai,
voilà,
ça c'est sûr.
Voilà, voilà, c'est sûr. C'est
on s'est juste replongé quand même.
Rien n'est irrévocable.
Après, Duga, tu sais, excuse-moi, Benoît, mais Duga, sur le fameux contre-pressing, tu dis la meilleure prestation des Parisiens contre Lille, en effet, mais sur, quand j'insiste sur la deuxième mi-temps, c'est surtout le changement de position. Moi, je l'ai pas épargné dans les critiques parce que je l'ai trouvé vraiment moins bon. Et il progressait plus, c'était Zaïre Emery. Zaïre Emery contre Lille, il monte au milieu de terrain à la place de Mayoulou en début de deuxième mi-temps. Et franchement, ça t'a transformé le milieu parce que son volume a fait qu'ils ont récupéré des ballons plus haut. Et même dans l'animation, il a été meilleur que Mayoulou, qui est décevant depuis le début de saison, ça c'est sûr. Et derrière, ça t'a permis en effet de retrouver une base assez solide avec des attaquants. C'est toujours pareil, hein, Duga et Steve. Quand t'as un ballon d'or qui est au niveau de sa deuxième mi-temps avec ce deuxième but incroyable, c'est sûr que ça te bonifie toute une équipe.
Bah, 24-25 la saison dernière, c'est quand même du talent individuel, de la cohérence collective, des joueurs. Je pense à un pic de forme. Je parle à cet instant-là, donc sur la partie janvier jusqu'à la finale, avec un pic de forme qui monte en puissance, une cohérence tactique impressionnante. Et je reviens sur ce que tu disais, Jérôme. Honnêtement, il y a que toi qui avait peut-être réussi dans mon entourage à l'avoir détecté sur le premier semestre de la saison 24-25. Moi, franchement, c'était pas lisible. Toi, t'avais réussi à le détecter. Ce qui se passe. Voilà. C'est les gauchers, ça.
On a hâte de te voir entraîner, Jérôme. Vraiment.
Sur quoi t'as dit?
Je comprends pas.
T'as dit quoi?
On a hâte de te voir entraîner. J'ai hâte vraiment de te voir.
Plutôt sélectionneur.
Du gars. On le verra pas entraîner, mais on le verra sur le banc.
Je vais pas mettre les rêves en péril. Arrête.
Du gars, sélectionneur.
Je vais bientôt être sélectionneur, de toute façon, vous allez voir.
Ça c'est pas mal. Ouais. Ah bah, on verra.
Il n'a pas dit.
Je sais pas pour qui c'est pas mal, mais c'est pas mal.
après, je te dis, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Steve, non, c'est que on s'est tous replongé dans le moment d'il y a un an, là, avant ce match contre Manchester City. Je peux vous dire qu'il y avait d'énormes critiques sur ce Paris Saint-Germain. Donnarumma, tout le monde avait des doutes. Il y avait plusieurs absents dans l'effectif du PSG. Il y avait des doutes autour d'Ousmane Dembélé. Tu vois, il ne faut pas non plus embellir la situation de la saison dernière.
Non, c'est pas embellir, mais c'est quand même, on a vu quand même à partir de janvier une très grosse trajectoire qui était très positive sur tous les joueurs, sur le collectif, sur l'état d'esprit. On en a parlé du pressing, du contre-pressing, sur l'attitude offensive et puis sur la réussite. La réussite, elle vient forcément du travail, de l'investissement. Là, cette année, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une forme d'indulgence, c'est que ce qu'ils ont vécu, le manque de repos, on peut y revenir encore 6 mois après, mais t'as des joueurs qui commencent à revenir un petit peu. J'ai adoré Ousmane Dembélé lors de son dernier match, tu fais une femme de frappe, il hésite pas, il fait encore tomber 2 mecs, il y a un mec qui arrive derrière lui à sa gauche, il te fait un piqué, le gardien il est au 5,50. Comment tu peux réussir à câbler ça? C'est pas possible.
Non, tu peux câbler juste à travers ses performances. Et là, je te coupe sur Ousmane. Mais Ousmane, tu peux le voir, et Duga le disait, et c'est vrai que c'est la vérité, c'est que quand dans ce fameux contre-pressing, il récupère le ballon haut et tout, c'est Ousmane qui a l'année dernière, qui a été le premier, le détonateur. Je l'ai retrouvé ce qu'il n'avait plus sur les derniers mois, ce qui est logique.
Par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est que les autres soient dans la même dynamique de Ousmane. Dembélé, quand tu vois Désiré Doué, bon, il n'est pas encore en rendez-vous. Barcola, c'est pas encore en rendez-vous, c'est fébrile. Et c'est fébrile depuis quand même pas mal de temps, mine de rien. C'est pas que de janvier.
Barcola, il manque d'efficacité.
Est-ce que Kvaratskhelia, il faut s'inquiéter ou
bien sûr, ouais, c'est vrai.
Exactement. Il y a lui. Bon, Ramos, on va pas en parler parce que Ramos, au final, c'est un super sub. Et je crois qu'il a intégré ça.
Tu peux mettre Fabien Ruiz qui est méconnaissable aussi, qui a du mal.
Et puis Vitinha, par contre, qui est surutilisé quand même depuis un an.
Ouais, mais bon, lui.
Il n'a pas de repos. Ouais,
Lui, il est toujours performant.
Alors,
et là, je vais juste finir sur un truc. on a quand même, le PSG a quand même le retour, parce qu'on s'attendait quand même à une grosse dégringolade, c'est Chevalier. On s'attendait à ce que sur décembre, il se dégringole après les erreurs qu'il ait faites, après le coup qu'il ait pris.
Mais t'es rassuré et là, quoi avec Chevalier?
Non. Ce que je veux dire, c'est que
tiens, mais tu l'as vu contre Lille. Heureusement qu'il y avait les poteaux, parce que
un concours de circonstances fait que ils redeviennent légitimes et que la pression elle soit partie. Honnêtement.
Bon, accueillons Jonathan, supporter du PSG au 32-16, Jérôme.
Salut Jojo.
Salut l'équipe. Salut Jonathan.
Ça va Jonathan?
Ouais, ça va, nickel.
Écoute, alors bon, qu'est-ce que t'en penses toi de par rapport à l'année dernière? Est-ce que le PSG en avance? Est-ce que tu les vois un petit peu comme moi et même comme Duga par moment dans le jeu se chercher encore collectivement?
Ouais. Non, mais je pense pas que ce soit une question d'avance, de retard. Aujourd'hui, je veux dire, on est ni ridicule, ni exceptionnel comme l'année dernière, mais on tend quand même vers le bon depuis le retour de nos blessés et des manquants qu'il y avait dû à la saison dernière, comme tu disais.
Bah, Jonathan, t'es un peu dans le ridicule avec la Coupe de France quand même.
Non, c'est pas ridicule. Je veux dire, le Real Madrid ont perdu contre Albacete, ça arrive même au plus grand, c'est comme ça.
Ouais, pas grand Real.
Je veux dire, les trophées, on les enquille depuis 15 ans. T'as bien une saison où tu peux pas tout, enfin, ce qu'on a réussi l'année dernière, c'est historique. Et je le souhaite de le revoir une fois dans ma vie. Mais je veux dire, de là à gagner 6 trophées, bien sûr qu'on aimerait.
Ça arrivera pas, t'as perdu la Coupe de France, déjà.
Ouais, voilà. Ouais. Déjà, t'as perdu la Coupe de France. Mais je veux dire, t'as déjà gagné le trophée des champions. T'es en course en Ligue 1. T'es en course en Ligue des champions. T'es mieux classé que l'année dernière. Et alors qu'on a démarré la Ligue des champions et on avait pas mal d'absents. Faut pas oublier non plus, parce que les gens, maintenant, non, ils s'attendent, alors pas vous, parce que vous êtes plutôt, enfin, logique avec le PSG, mais on a démarré la saison, ils étaient tous KO, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Mais même encore, Steve le disait, il y a encore des mecs qui ont du mal à retrouver l'exigence qu'ils avaient et les performances de l'année dernière.
Vas-y, Jonathan, vas-y, excuse-moi.
Bien l'équipe, parce que on a eu quand même pas mal d'absents. On a eu la découverte d'un Zaïre Emery. Bon, même si c'est pas une découverte, mais je veux dire, au poste de latéral droit pour Achraf, il s'en sort plus que bien, alors qu'on avait des doutes au milieu quand il démarrait.
Après, Zaïre Emery, s'il veut jouer sur le côté et s'inscrire dans la durée sur le côté, je vais aller travailler les centres avec lui, parce que franchement.
J'ai entendu dans une émission, Jérôme, à toi, il y a pas longtemps, où il parlait de recrutement, est-ce qu'il fallait absolument recruter cet hiver et tout. Moi, je suis pas forcément, j'étais plutôt de ton avis, de là à ramener absolument des mecs alors que t'as des jeunes qui montent, qui leur barreraient le chemin. Moi, je suis ok avec la politique qu'il y a en ce moment. On verra avec le petit jeune du Barça qui arrive si ça se confirme. Moi, je préfère faire monter nos titis qui se battent pour y aller. Tu vois, Ibrahim Mbaye encore qui fait une super canne, Mayulu qui grandit. Faut pas oublier qu'ils ont 18 ans, les gars.
Non, mais c'est pour ça. Mais là, Jonathan, où t'as raison,
ça dépend qui tu recrutes. Allez. Là, on parle de recrutement. Si tu prends des joueurs qui surperforment et qui ont un vrai statut, qui vont t'apporter quelque chose, parce qu'il y a une différence entre recruter et renforcer.
Oui, c'est ça.
Merci à Jonathan.
Ce qui a été fait, du gars où t'as raison, il y avait une opportunité de marcher parce que ça faisait un bout de temps qu'il suivait avec Kvaratskhelia l'année dernière au mois de janvier. Et que là, cette année.
Ils l'ont fait parce que c'était un renfort.
Oui.
Ils l'ont pas fait pour ajouter un truc. Ils l'ont pas fait. Là, c'est pareil.
Exactement. Là, ils vont pas prendre un super sub à Ruiz, Vitinha ou Joao Neves.
C'est le moment de l'alerte pour tenter de remporter l'expérience RMC la semaine prochaine autour de ce PSG Newcastle. Le 28 janvier, magnifique. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16. Le match des Parisiens, c'est ce soir, 21h sur RMC. Sporting PSG, bien sûr, on va te rencontrer, toi, légende du Paris Saint-Germain.
Ah oui, déjà, on sera au Parc des Princes. On vous accueillera. Voilà. Je vous accueillerai dans ma maison.
Jérôme a les clés du parc, il faut le savoir.
Ah bah donc, c'est nous qui l'ouvrons à chaque fois.
Il peut vous emmener où vous voulez. Donc si vous voulez aller dans le vestiaire, tout ça, on pourra.
On va pas trop loin quand même parce que.
Bon, on arrête.
Tu vois, j'ai les clés, mais.
il y a certaines serrures qui restent.
Le trousseau, il ouvre pas tout.
D'accord. C'est pas passe-partout non plus.
Non.
Allez, dans un instant.
J'appellerai Nasser.
Le procès de Christophe Dugarry, accusé d'être beaucoup trop dur.
Depuis ce week-end, j'attends ça.
Deux arbitres. Allez, c'est dans un instant, ne bougez pas.
Jusqu'à 20h,
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h29 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant, et le moment que j'attendais, c'est le procès de Christophe Dugarry dans un instant, avec un auditeur, avec Steve Savidan, avec Benoît Boutron, à 18h45. On va recevoir mon ancien coéquipier.
Revenir sur
notre capitaine de l'époque, à l'AS Monaco, Monaco-Real.
Real-Monaco, 23 mars, match fantastique, défaite 4-2 de Monaco, mais quel match, on pourra en parler.
Ouais, on a pris 4 quand même.
Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a ce deuxième but de Morientes à la fin, parce que c'est grâce à ça que vous restez en vie.
On aurait gagné 4-1, on aurait gagné 3-1 au retour.
Allez, tout de suite le petit bonbon, c'est le procès du gars.
RMC, Rotten sans flamme.
Roberto, je me permets une petite question décalée, qui n'est pas directement sur l'OM.
RMC, non ?
RMC, oui.
Ah, oui.
Vous écoutez RMC, vous aimez bien ?
Non.
Non, ok, d'accord.
Non, Ascolto,
j'écouterai
non.
J'écouterai en RMC, général, non, c'est pas contre non, RMC.
D'ailleurs, on vous a invité plusieurs fois, mais on n'a jamais eu de réponse.
Vengo volentieri.
Je viendrai avec plaisir.
A uno en particulier, ci vengo volentieri.
Un programme
à quelle heure
particulier. Une émission en particulier, je viendrai.
Je sais, mais à quelle heure du coup 18h-20h.
Non, non,
je sais pas.
Ok. Bon, non, mais ma question décale.
Però non vengo come allenatore.
Et je viens pas en tant qu'entraîneur.
Ok, hein. Ok, mais avec plaisir.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ça, c'était vendredi en conférence de presse, et donc on renouvelle l'invitation. Roberto De Zerbi est le bienvenu dans son programme préféré des RMC, s'il veut venir débattre avec nous.
Il va venir.
Et notamment avec Christophe Dugarry, donc ce procès particulier ce soir. Il y a de nombreux débats toutes les semaines dans Rotten sans flamme autour de l'OM. Dugarry est souvent jugé très sévère, voire trop sévère vis-à-vis du coach italien de l'OM. Un entraîneur moyen, perdu, qui ne fait pas progresser ses équipes. On lui ramène d'autres arguments avec les nombres de points remportés par De Zerbi en Ligue 1 depuis son arrivée, ou alors le nombre de buts marqués. Ouvrons le procès de Christophe ce soir, accusé d'être trop dur avec Roberto De Zerbi. Le procureur est au 32-16, il nous a appelé hier, c'est un supporter de l'OM, c'est Joris qui est là. Salut Joris.
Messieurs, bonjour.
Eh bien, sois le bienvenu.
Salut Joris.
Première chose due, tu vas pouvoir mettre du gars face à ses responsabilités. T'es content Joris ?
Je suis très satisfait que vous m'ayez rappelé pour défendre mon client.
Eh bien, maintenant, du coup, tu vas pas le défendre. En fait, tu vas défendre De Zerbi.
Alors, t'es pas payé Joris, ça t'emballe pas.
Ouais. C'est ça.
Je sais Christophe, malheureusement, mais je me tiens à mon rôle.
Bon.
Je me tiens à mon rôle.
Du gars, tu vas te défendre, bon, et Steve sera d'ailleurs ton avocat. Il est commis d'office, désolé, mais il sera quand même ton avocat.
Alors là.
Ok Stevie ?
Pas sûr que ça soit
l'avocat de qui, moi ?
T'es l'avocat du gars. Oui.
Ah oui, il n'y a pas de souci.
Et voilà. Et le juge, ça sera Jérôme qui rendra son verdict sur ce projet.
J'adore ce rôle.
Vas-y Joris, qu'est-ce que tu as à reprocher donc à Christophe et à ses avis sur l'OM ?
J'y vais. Monsieur le juge, tout d'abord, merci de me donner la parole, maître Savidan.
Ah non,
Tiens tout d'abord à donner toute ma considération que j'ai envers l'accusé, monsieur Christophe Dugarry, qui était l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et que de temps en temps, d'ailleurs, nous oublions qu'il a porté notre maillot. Mais je trouve qu'il a des accusations envers Roberto De Zerbi qui me dérangent. Alors, pas sur le fait du jeu ou quoi que ce soit, puisque ça, c'est la chose qu'on peut critiquer. Et je pense qu'à l'époque, quand François Pesanti était venu chercher monsieur Dugarry, c'était pour qu'il ait une analyse fine sur les équipes dont il voit, et pas sur les attaques personnelles dont il fait en la personne de mon client. Puisque, vous l'avez très bien dit dans votre énoncé de départ, la moyenne de points est bonne. L'an dernier, l'objectif était de finir pour la Ligue des Champions, c'est ce qu'il a réalisé, avec une moyenne de 2 points par match. On est toujours autour de cette moyenne-là, on est en passe de se qualifier pour un tour principal de Ligue des Champions, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps à l'Olympique de Marseille. Ensuite, comme je l'ai dit hier et je peux le redire là, qu'on ne soit pas d'accord sur le fait de comment joue son équipe ou comment jouent ses joueurs, ça c'est critiquable et on est tous d'accord. Mais quand même, dans les très bons matchs de la saison, on ne peut pas dire que nous n'avons pas vu l'identité de jeu de mon client. Et elle est saluée par tout le monde, même si à Madrid nous avons perdu, nous avons fait un très grand match. Au Trophée des Champions aussi, contre le Paris Saint-Germain, un très grand match. En Ligue des Champions contre Newcastle aussi, il y a d'autres matchs. Et après, forcément, on me renverra au match contre Nantes, contre Angers à la maison, contre Toulouse. Mais ça, ce sont des choses du terrain et on peut en discuter très longuement. Mais là où je suis inquiet vis-à-vis de l'accusé, et que je pense qu'il va être accusé parce qu'il sera coupable et ça sera assez facile à démonter, j'ai pas eu besoin de remonter très très loin. J'ai pas eu besoin d'aller très très loin. Je suis à l'émission du 14 janvier. Vu que c'est assez régulier, on parle à peu près 3-4 fois par semaine de Roberto De Zerbi. Donc forcément, quand il y a Christophe Dugarry, je m'attends à ce qu'il y ait des envolées lyriques. Et alors là, florilège d'attaques personnelles est totalement injustifié envers mon client. C'est un showman. Il raconte connerie sur connerie. Il s'écoute parler. Il ne sait pas où il va. c'est un faux modeste, il prend tout pour lui. Alors je suis outré et offusqué
par ses attaques. Si, t'as dit ça.
Si, il a dit ça, émission du 14 janvier.
Bien sûr, il va assumer, t'inquiète pas.
Juste avant alors. D'appuyer les propos de l'entraîneur de l'AR1. Et je termine, parce que j'ai bientôt terminé.
Okay.
J'espère que vous pourrez juger ces faits qui sont édifiants. Parlons de l'entraîneur et du jeu, il n'y a pas de problème, mais les attaques personnelles rendent inaudibles les attaques de M. Christophe Dugarry. Monsieur le juge, je vous sais avec beaucoup d'intégrité, donc je pense que vous prendrez la bonne décision. Et surtout, j'aimerais qu'il y ait du respect envers Roberto De Zerbi et qu'on on remette de la probité envers mon client. Je vous remercie, mesdames et messieurs.
Merci pour plaidoirie. Parole à la défense, alors, Monsieur Dugarry, comment allez-vous vous défendre?
Non, mais tout d'abord, avant de revenir au procès, parce que j'ai pas eu le temps de m'exprimer, suite aux trois derniers matchs de l'OM, je voudrais quand même donner mon avis, parce que je me suis pas, voilà, je voulais dire quand même que les trois derniers matchs de l'OM ont été excellents, que De Zerbi a été excellent et que je suis ravi de le dire. J'ai enfin retrouvé un OM conquérant et en jambes dans son pressing, inspiré techniquement et très intéressant dans son agressivité, dans son intensité qu'ils ont démontré. J'ai enfin trouvé un OM à la hauteur de son ambition, comme j'ai pu le retrouver, que ce soit en première mi-temps face au Sporting, que ce soit face à l'Ajax, que ce soit face à Paris au Vélodrome. J'ai trouvé un De Zerbi et des joueurs de l'OM très, très, très inspiré et vraiment excellent sur ces trois derniers matchs. Donc ça prouve que je suis capable de dire du bien de l'OM et de Zerbi. Je n'ai aucun problème avec ça. Une fois que ça s'est dit, revenons au procès, à l'accusation qui m'est faite. Je ne me trouve pas dur avec Zerbi, je me trouve exigeant. Tout comme on doit l'être, et doit l'être certainement De Zerbi, avec lui-même ou avec ses joueurs. Je pense que cette exigence doit être une donnée essentielle quand on parle du club le plus populaire de France. De cette exigence quand on parle de l'OM, donc quand on parle de Zerbi. Et moi, toujours avec un souci d'exigence quand je parle de l'OM et de Zerbi, quand ils sont bons ou inspirés, je n'ai pas peur de le dire. Quand ça ne me plaît pas, quand je les trouve mauvais, ennuyeux, pas à la hauteur, que je trouve que De Zerbi n'est pas à la hauteur non plus, je le dis de la même manière. Je suis toujours de bonne foi, je tiens à rassurer certains. Après, on a le droit de pas être d'accord avec moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, quand un entraîneur change autant de tactiques ou de compos d'équipe depuis le début de la saison, et il participe indéniablement à l'instabilité et à l'irrégularité de son équipe. Pour moi, quand un coach explique après chaque mauvaise performance de son équipe que ses joueurs sont fatigués, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là et ce raccourci-là. L'année dernière, il nous expliquait que ses joueurs manquaient de coronavirus. Et cette année, il nous explique que ses joueurs sont fatigués. Ok, très bien, il n'y a pas de problème, je l'entends. Quand, la semaine dernière, il nous dit que lorsque Benatia et Longoria partiront, il nous explique qu'il partira aussi, je trouve ça inapproprié, déstabilisant pour son équipe et pour son club. J'y vois pas une marque de fidélité comme certains peuvent le voir. Moi, j'y vois un échappatoire. Un échappatoire, pardon, pour se justifier pour un futur départ. Quand je le vois s'en prendre de manière inconsidérée l'année dernière à l'arbitrage, je trouve que ça dessert son équipe. Quand je l'entends parler sur certains joueurs qui portent au nu, puis s'en sépare ou ne les fait plus jouer quelques semaines après, je trouve que ça perturbe son vestiaire. Quand je dis que je suis pas dur avec lui, je dis que je suis juste. Je vais même aller plus loin. Je pense que De Zerbi, s'il gommait un peu tous ces petits défauts là que je viens de citer, je pense que son équipe mériterait d'avoir 5 ou 6 points de plus et aurait 5 ou 6 points de plus. Voilà. Après, chacun est libre de pas être d'accord avec moi. Moi, je respecte toutes les analyses. Voilà. Et De Zerbi ne doit pas être d'accord avec moi. Il doit être le premier à ne pas être d'accord avec moi. J'ai pas de souci avec ça. Je le respecte. Mais je voudrais finir quand même par trois petites choses pour me défendre. Mm-hmm. Je voudrais vous dire, De Zerbi, ça fait 18 mois qu'il est là. Pas une seule fois, j'ai demandé sa tête. Pas une seule fois. Donc pour un mec qui s'attaque à De Zerbi et qui trouve que c'est un entraîneur moyen, je trouve que je lui laisse du temps.
T'as même dit qu'il fallait continuer plusieurs fois.
Bon, voilà, jamais, pas une seule fois. Je peux lui trouver des limites, mais jamais j'ai demandé sa tête. Donc je reconnais quand même une certaine qualité de travail. La deuxième chose, l'OM a un budget de 260 millions d'euros.
Le budget, c'est Lens qui a 8 points de plus aujourd'hui que Marseille, a 60 millions d'euros de budget. Si on ne peut pas se permettre d'être exigeant avec un club qui a des moyens dans le football français actuel, qui sont colossaux, rappelons-nous quand même que la crise que traverse le football français aujourd'hui, avoir 260 millions d'euros de budget, c'est colossal. De Zerbi a des moyens colossaux pour faire aujourd'hui ce qu'il fait. Donc moi, cette exigence, je la réclame, je la demande. Elle est nécessaire si on n'est pas, si on n'est pas exigeant et on ne demande pas de la qualité de travail avec un entraîneur comme ça qui est arrivé avec, je rappelle, il est au centre du projet. Donc on parle pas de n'importe quelle équipe. Donc voilà, je trouve que c'est tout à fait légitime l'exigence que j'apporte lorsque je porte un jugement à l'Olympique de Marseille ou à De Zerbi.
Bon, Steve, je pense que l'accusé s'est bien défendu tout seul. Ouais, en deux mots, vas-y, avant le verdict.
De Zerbi, il séduit les idées. Christophe Dugarry juge les faits. Les deux ont raison. Dans l'absolu, c'est des points de vue totalement différents. Je rejoins totalement Christophe quand il dit qu'à un moment donné, on se doit d'être exigeant avec l'OM. Mmh. Déjà d'une, quand on aime l'histoire de l'OM, de ce club et tout, on se doit d'être exigeant. Deuxième budget, moi je rappellerai quand même que sur ce premier semestre, ils ont raté à chaque fois, on regardera dans les classements et les matchs, à chaque fois que Paris n'a pas eu un résultat positif, l'OM était en capacité d'être premier à un point ou à égalité, ils ont raté toujours le coche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un impact émotionnel qui est peut-être trop lourd, une charge émotionnelle trop lourde, et moi je dirais... Bon. On ne voit pas une cohérence sur cette équipe. Et après, dommage.
Juste une dernière chose, Steve. Je voulais quand même rappeler qu'en football, attention, rien n'est jamais définitif. Et les avis ou les opinions, elles peuvent toujours évoluer.
Faut pas insulter l'avenir.
Oui, mais il peut tout se passer. Et peut-être aujourd'hui, ceux qui sont pro De Zerbi seront le premier à demander sa tête à la fin de la saison. Alors. Et moi, je serai peut-être le premier à le défendre aussi. Donc les opinions, elles ne sont jamais définitives. Elles peuvent évoluer. Moi, les trois matchs de l'OM et la série qui est en train de faire l'OM sur la qualité de ces matchs, pourvu que ça dure. Mais moi, quand je pose mon derrière sur un canapé, j'espère qu'une chose, c'est voir un bon match. Moi, je me régale pas à avoir des matchs cacahuètes, ça m'amuse pas.
Alors, le verdict du juge Roten, et Joris est là pour écouter le verdict de ce procès.
Je suis très déçu tout de même que personne n'ait répondu sur les attaques personnelles, parce que vous avez parlé de jeu, et sur ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais bon...
J'estime que c'est du jeu, j'estime que c'est des attaques personnelles, j'estime...
Monsieur Dugarry, voilà. Vous êtes l'accusé, vous êtes beaucoup défendu, je savais pas qu'on avait le droit, mais bon, ça c'est encore autre chose.
Écoute, alors le juge...
Je me suis bien défendu tout seul, j'ai l'impression.
Pour moi, c'est juste sur les attaques personnelles. En fait, parce que Joris a insisté là-dessus. Ça dépend comment on comprend la critique. C'est toujours pareil. Il y a une façon de parler de foot, d'analyser le foot, d'analyser un homme, d'analyser un entraîneur. J'ai pas l'impression dans les propos de Monsieur Dugarry. C'est pour ça que je vais prendre sa défense.
Comment il peut être relâché sur ce procès ?
Je vais pas insulter en plus.
Il peut pas être honnête avec De Zerbi s'il voyait des choses positives. Et pourquoi je dis ça ? Parce que il y a eu l'exemple type l'année dernière avec beaucoup de critiques de la part de Monsieur Dugarry sur Luis Enrique aussi comme sur De Zerbi et à l'arrivée ça l'a pas empêché de dire beaucoup de bien sur l'apport de Luis Enrique comme il pourra dire beaucoup de bien sur l'apport de De Zerbi si jamais
moi j'en rêve dire que du bien moi tu sais ça me
Que les attaques perso, en plus, franchement, il y a beaucoup de second degré aussi. Quand on compare un entraîneur comme De Zerbi à un entraîneur de R1, bien sûr qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein.
Le verdict est tombé. Joris, rassure-toi, tu peux interjeter appel, si tu veux. Hein. Tu fais appel de cette décision.
Je vais y réfléchir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Aux Armes. Je pense que je vais inviter M. Dugarry pour qu'il puisse.
Tu sais ce qui est intéressant.
Je serai très content de l'accueillir et puis. Nous finirons l'année comme ça.
On va pouvoir en reparler lundi prochain parce qu'il y a deux matchs importants en plus pour l'OM.
Exactement.
Et là, ils sont sur une série de belles victoires et de très bons matchs.
On attend la confirmation.
L'irrégularité est enfin terminée à l'Olympique de Marseille. Bon.
Mais Joris, t'en fais pas, t'auras pas du gars, mais je viendrai moi dans le podcast.
Dans le podcast aux Armes avec Jérôme, ça peut être bien.
C'est bon, merci.
Ah non, c'est fait.
Merci.
Oh bah c'est dommage. C'est dommage. Si tu veux pas faire d'audience, Joris, tant pis pour toi.
Hein. Il lui a dit non merci. Merci Joris d'être venu.
Merci Joris. En tout cas.
Tu rappelles quand tu veux dans un instant. Ouais. Allô Jérôme. Avec ce Real Monaco ce soir, on va se remémorer de bons souvenirs avec Ludovic Julie, les souvenirs de Ludo et de Jérôme sur cette grande soirée. Voilà. Il y a eu le match retour, mais il y avait eu le match aller aussi qui avait été fantastique. Défaite 4-2, mais du grand spectacle. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Boutin.
18h49 sur RMC, on est en mode Ligue des Champions. Deux grands matchs ce soir. Le Paris Saint-Germain va rendre visite au Sporting Portugal. Oui, Sporting Lisbonne, on est là ce soir. Grand match du Paris Saint-Germain, mais il y a aussi un grand match. C'est l'AS Monaco qui se déplace à Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. Il va falloir être à la hauteur, les Monégasques, avec Bernard Béhou.
Bernard Béhou, bien
sûr. On est avec Steve Savidan, qui connaît bien Bernard Béhou.
Bien sûr.
Plus que Bernard Béhou. Le Real de Madrid.
Bien sûr. C'est
notre club. Et puis le Real de Madrid aussi, tu le connais bien. Ouais. On est avec Christophe Dugarry, Benoît Boutron. Après 19h, Benoît.
Et bien justement, la crise au Real, est-ce que le modèle Pérez est périmé? Vous aurez toutes les infos avec Edgar Grolon. On vous attend au 32-16 pour en débattre.
Mais là, c'est le Allo Jérôme. Ah. Il est là, le capitaine.
Allez, on y va.
RMC, Rotten sans flamme.
La volée. Oh, qu'il est beau.
Magnifique ce but
de Julie. Voilà, il est fontané tenter les reprises de volée.
Il est magnifique.
Celle-là, elle a marché. Et but de Julie. Il nous a fait une match d'air.
Ouais, une match d'air, non.
Magnifique de Julie.
Allô Jérôme.
Et oui, le souvenir de ce quart de finale, Monaco avait éliminé le Real Madrid en match aller-retour. Une défaite 4-2 à l'aller le 24 mars 2004. Jérôme et Ludo de Julie étaient titulaires. Ludo de Julie, capitaine de Monaco, qui est en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Salut Ludo.
Mesdames à tous, comment allez-vous les gars?
Salut Ludo, bienvenue.
Écoute Ludo,
ça va bien?
Ah, t'es en forme hein?
Bah écoute, je reviens du Mexique, moi.
Ah, tranquille, ah, écoute, c'est une retraite dorée.
Je suis un peu en décalage horaire, mais tout va bien.
C'est une retraite dorée, c'est fantastique.
Bon, alors...
Je l'ai mérité.
Bah, bien sûr, tu l'as mérité. Bah, ça tombe bien, parce que tu l'as mérité à travers les matchs ça, contre le Real Madrid. Ouais. La confrontation, alors t'as joué plusieurs fois contre le Real, et par la suite avec Barcelone. Mais quel souvenir
de ce match
à Santiago Bernabéu. Tu faisais un peu dessus avant de rentrer sur la pelouse, hein, je me souviens.
Les deux, quoi. L'aller était incroyable parce que c'était le retour de Morientes et nous, dans le bus, je me rappelle, quand on arrive à l'aéroport, c'était une star, quoi. Il y avait, je sais pas combien, 300-400 personnes pour sa venue, c'était incroyable et c'est vrai que quand on est arrivé dans le stade, on était petit déjà, très petit, et on s'est dit bon bah on va essayer de pas prendre une grosse pilule et voilà et ça a été un gros moment pour nous, pour l'équipe et c'est vrai que le match aller où tout se passe moyennement parce que forcément on score en premier avec
le tempo
et on se dit bon on va faire l'exploit et après la machine ils ont déroulé la Draxler et ça a été compliqué et c'est vrai que là on a vu qu'on avait des carences incroyables et qu'ils étaient vraiment au-dessus mais c'était un grand moment, le premier match il était vraiment impressionnant pour tout le monde.
Tu te souviens Ludo, à la mi-temps on rentre à 1-0, on met d'un 0, on marque sur corner et on maîtrise. Vraiment, on maîtrise. Et on est même surpris de maîtriser dans un stade de 90 000 personnes comme ça, avec des stars en face, les Galactiques. Et tu te souviens, la Dèche nous dit, parce que nous, on était surpris, agréablement surpris de ce résultat, Ludo. Et la Dèche nous dit, attention, hein. Hey, oh les gars, le match, il reste 45 minutes, il peut tout se passer encore. Bah oui. Pendant 20 minutes, on a pris un bouillon.
C'est vrai que sur la première mi-temps, on s'est dit, bon, bah, nous, on est là, on va peut-être faire l'exploit encore, on est contents. Et c'est vrai que quand ils ont enchaîné, ça a été
El Guerin, Zidane, Figo, Ronaldo, avec des buts magnifiques. Hein. Ronaldo, l'enchaînement dingue.
Et Beckham, tu peux rajouter Beckham.
Alors justement, je voulais vous parler de la compo, parce que c'était un grand Real Madrid, le Real des Galactiques. Le milieu de terrain, c'était Beckham, Guti. Et il y avait les quatre stars devant, Figo, Raoul, Zidane et Ronaldo. Bah Jérôme, raconte-nous toi ton souvenir de ce match déjà un peu sur la pelouse, le Bernabéu.
Mon souvenir c'est que Figo et Salgado, ils ont fini dans ma poche gauche mais
Non, franchement, le souvenir, c'était ça. Mais c'est exactement ce que je disais avec Ludo. C'est le sentiment en première mi-temps d'avoir été plus qu'à la hauteur de l'événement, parce que limite, on a dominé ce Real. Ils ont rien fait. Et Ronaldo, je me souviens, moi, ça m'avait marqué. Ronaldo, la première mi-temps, il l'a passé, Ludo, tu te souviens, dans le rond central. Ouais. Il a pas fait un appel. Il marchait et on dit, mais écoute, il est carbonisé. Ouais. Et en fait, la machine, ils ont dû appuyer sur le bouton à la mi-temps. Ils se sont dit, attends, là, on passe pour des cons. Et pendant 20 minutes, là, c'est là qui ça m'avait surpris, parce que Gaël Jivet jouait arrière droit ce jour-là. Ouais, je me souviens, Ludo. Et en fait, t'avais, à gauche, t'avais Zidane. Figo, il avait changé de côté. Il se retrouvait avec Roberto Carlos, avec Ronaldo qui venait. Ah, et le mec, il en avait 3 ou 4 sur lui. Il avait de la bave. Il bavait. Et là, on se disait, mais là, on est mal, parce qu'ils ont mis un premier but, un deuxième, un troisième. Là, la machine, quand elle est lancée, et Ronaldo, qui avait pas fait un mètre en première mi-temps.
Incroyable.
Mais la deuxième mi-temps.
Il marque un but.
Ludo, tu te souviens, le passement de jambe, il fait un passement de jambe d'un moment. Non, mais ça va à 2000 à l'heure, c'est fou.
Ouais, trop fort.
Il allait trop vite. Après, c'est vrai que sur ces 20 ou 25 minutes où on a pris le bouillon, on était spectateurs, on pouvait plus rien faire.
Ah ouais.
Déjà, physiquement, on était cuits parce que forcément, en première mi-temps, on avait joué notre vie. Mais après, eux, ils ont accéléré et là, on s'est dit, bon, c'était incroyable. Incroyable. C'était beau à voir, en tout cas.
Ludo et Jérôme, je suis obligé de vous parler du match de soir qui attend les Monégasques. C'est la crise à Monaco, hein, ça va très mal. La greffe ne prend pas avec Pocognoli. Il y a des gros problèmes d'effectifs. Monaco est seulement 9e de Ligue 1. Il y a 4 défaites d'affilée en championnat. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que Ludo, t'es inquiet pour Monaco?
Ludo, toi, qu'est-ce que t'en penses des dernières perfs de Monaco, si t'as vu les matchs?
Écoute, moi j'ai vu les matchs et forcément ça me blesse. Et pour tout vous dire, j'ai fait un appel du pied quand même. J'ai dit que s'ils avaient besoin de moi dans quoi que ce soit, j'étais présent, quoi. Donc j'ai pas eu de retour.
Ah oui,
je vous casse pas.
C'est pas étonnant.
J'ai pas eu de retour, mais c'est vrai que c'est flippant, quoi. C'est décevant surtout parce qu'il y avait tout pour faire quelque chose de bien. Et bien sûr, avec les blessures, il y a beaucoup de blessés, donc il faudra aussi regarder au niveau médical qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que la mayonnaise, elle prend pas. Elle prend pas parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de mec à part Paul. Mais Paul, on lui demande tellement de choses que déjà il faut qu'il se concentre pour revenir. Et il peut pas tout faire, surtout que voilà, il y a pas de cadre,
il connaît pas la boutique, Paul. Il découvre Monaco, c'est un contexte spécial. Et t'as raison, Ludo. Ce que je veux dire, c'est que des anciens, il y en a beaucoup, hein, t'en fais partie, qui connaissent le contexte, qui vivent dans la région. Dire comment on peut pas faire appel à vous, quoi.
Je sais pas. Écoute, je demande parce que j'aime ce club forcément. J'aime ce club et j'aime les autres clubs où j'ai joué, mais celui-là, il est quand même particulier pour moi. J'ai fait pratiquement 9 ans et voilà. Et je le vois s'enterrer tout doucement et que personne dit rien. Il n'y a pas de réaction. C'est ça qui me fait peur. Mmh. C'est qu'il y a rien qui se passe. On dirait que on laisse aller puis on verra ce qui se passe.
Ludo, salut Steve. Et puis surtout, qu'on rappelle quand même que t'as tes diplômes.
Oui, non, mais je parle même pas de coaching, moi, parce que coaching, c'est encore autre chose.
Ça. Oui, mais il y a quand même aussi
mais
ça.
Moi, je parlais
tu peux avoir un regard à la fois.
Oui, c'est un accompagnateur.
Tu peux avoir un regard sur la structure, mais tu peux aussi avoir un regard technique.
Oui, bien sûr. J'ai la casquette des deux, et c'est vrai que, à Monaco, on peut dire ce qu'on veut, c'est particulier. Et si t'as pas quelqu'un où il y a un repère, où il y a justement une mobilisation, où dire voilà les gars, vous avez tout ce que vous voulez, mais il faut vous bouger le cul, et qu'un mec soit derrière et justement ait du respect pour le club et pour les joueurs, en leur disant voilà, vous pouvez réussir, vous allez réussir, mais il va falloir faire 2 fois plus d'efforts parce qu'à Monaco, si vous n'êtes pas motivé entre vous, c'est la mort.
Juste une question pour vous, les gars, les deux anciens, Ludo et Jérôme, est-ce que d'après vous, s'il y a défaite, voire grosse défaite ce soir, est-ce qu'il faut de nouveau changer d'entraîneur relancer quelque chose, se séparer de Pocognoli?
Je sais pas ce qu'en pense Ludo, mais moi je te donne juste mon avis. Je pense que le problème n'est pas de Pocognoli aujourd'hui, c'est pas la qualité de l'entraîneur. Non, mais le problème il est dans le respect. Comme le dit Ludo, c'est dans l'institution. C'est toujours pareil. Chaque club a une identité, une ADN, un ADN plutôt. Mmh. Et en effet, tu regardes dans les clubs, qu'est-ce qui représente, quel repère il y a pour les joueurs et tout, qui sont perdus aujourd'hui, parce que les joueurs, ils sont perdus. Et l'entraîneur qui arrive là, c'est un jeune entraîneur qui est là, il sait qu'il est jugé à travers les résultats, déjà, avant de parler des performances, des résultats, et que t'es une dynamique qui est terrible, parce que t'enchaînes les défaites et les défaites et les claques, hein, parce que c'est des grosses claques reçues. L'entraîneur, qu'est-ce que tu veux? Il peut pas tout faire.
T'es d'accord, Ludo?
Et puis t'as un directeur sportif, encore une fois, moi, mais Thiago Scuro, en fait, il découvre, comme Pocognoli, comme la plupart, il découvre ce club. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ils savent pas ce qu'il faut mettre en avant pour faire réagir les joueurs et surtout avoir des mauvais résultats. Bon. Au contraire, ils recrutent des mecs, là, qui sont en deuxième division anglaise.
Ludo, c'est pas Pocognoli le problème, alors il faut pas changer.
Non, rien à voir avec le coach. Je pense qu'il a ses idées et que ça doit marcher. Sauf que, à un moment donné, il faut juste motiver les joueurs et leur montrer que ici, c'est pas comme les autres clubs, c'est particulier. Il faut justement une cohésion de groupe parce qu'elle est hyper importante si t'as pas la cohésion de groupe. Parce que quand tu les vois jouer, tu les sens perdus, les joueurs. Ils ont l'impression d'être perdus sur le terrain et ils ont plus de repères, ils savent pas ce qui se passe. Et mentalement, je crois qu'ils sont très faibles. Il faut justement, travailler parce qu'ils sont professionnels, ils vont travailler. Mais je crois que remettre tout le monde à niveau et surtout leur botter le cul quand il faut leur botter le cul.
Voilà. Merci,
qui va
leur
botter le cul? Le problème, c'est qui va porter, qui porte ce chapeau-là en disant je suis la mauvaise personne et c'est pas grave, je suis la mauvaise personne, mais tu vas avancer parce que le club a besoin d'être en haut et pas jouer la deuxième place.
Ludo, merci beaucoup.
Ludo, on va les emmener au SAS comme à l'époque.
21h. Ouais. Merci Ludo d'être venu. À bientôt. Allez,
merci sur RMC.
Merci Ludo. Bisous, embrasse la famille et merci. Hein.
Et dans un instant, justement, on lance l'avant-match de ce Real Monaco. Est-ce que, justement, le Real, est-ce que la méthode Pérez est périmée? 32-16 pour participer avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h04 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme, la deuxième heure en mode Ligue des Champions, bien sûr, on a hâte. Alors les matchs ont commencé, il y a Bruges qui a gagné
4-1 à Almaty et en ce moment 0-0 entre Bode Glimt, le club norvégien, et Manchester City.
Ouais, bon, c'est pas là qu'on va faire l'audience, donc on va parler du Real Madrid dans un instant. On est avec avec Steve Savidan, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. La première heure, elle s'est bien passée.
Le procès de Christophe Dugarry a enfin gagné
grâce à moi le procès. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
Incroyable.
Et on remercie Ludo, Julie, qui était fatigué, était décalage horaire, il savait plus trop ce qu'il disait à la fin, donc il valait mieux qu'on s'arrête. Mais on le remercie, vraiment.
2500 supporters monégasques à Madrid. On fera le point d'ailleurs dans un instant avec Edgar Groslo qui nous attend. Info également de la journée, c'est donc une nouvelle recrue à Marseille. Le jeune Ethan Nwaneri, un milieu de terrain offensif qui arrive en provenance d'Arsenal avec un montage financier particulier, un prépayant d'1,5 million d'euros pour Nwaneri. Même moi ça me surprend. Il n'y a pas d'option d'achat et Marseille prend en charge le salaire. Il y a même des exigences de la part d'Arsenal.
Une obligation qui joue.
Un nombre de matchs à
alors
disputer.
Alors celle-là c'est la plus belle.
Tout ça on en parlera demain de l'OM et vous avez déjà le premier avis de Jérôme.
Arsenal a sous-traité l'Olympique de Marseille. C'est très bien.
Quiz à 19h45, tous contre Rotten a gagné un an de café saveur noisette, le temps des cerises. Magnifique marque de café, voilà, pour tous les modes de préparation, en grain, moulu, capsule ou dosette. Si vous voulez vous inscrire, 32-16, touche 4.
Pour juger, il faudrait qu'on
quiz par SMS au 732-16.
Mais intense. Hein.
Une bonne VAR à 19h30, est-ce que Pierre Sage est en train de changer de dimension? Un discours incroyable à la pause de Lens Auxerre samedi, vous allez écouter ça. Et la métamorphose de ses joueurs, la victoire 1-0. Oh, Lens toujours leader du championnat.
Métamorphose.
Incroyable.
Mais tu l'as vu le match? À mon avis, tu n'as pas vu le match.
Ils sont allés chercher la victoire, c'était impressionnant.
Non, mais la métamorphose.
Et c'est grâce aux paroles de Pierre Sage qu'on va réécouter.
Ah non, mais à 19h. Heureusement qu'il a eu un impact.
Allez, 19h06, tout de suite.
M'a réveillé. Bon.
Le grand Steve Savidan nous parle de l'institution Real Madrid.
Au milieu des années 50, le Real Madrid devient le plus grand club du monde.
On l'a vu lors de sa présentation au stade Bernabéu.
En 2000, un riche homme d'affaires du nom de Florentino Pérez postule pour la présidence du Real.
Ils sont tous restés individuellement dans leur qualité intrinsèque.
Il est promis de bâtir les nouveaux galactiques du 21e siècle.
J'ai l'impression de me pincer la jambe.
Il est question de devenir indestructible tout en bâtissant sur la gloire du passé.
Tu deviens tellement parano, les arbitres, ils vont te ken.
Florentino va leur faire une offre, rebâtir une équipe de Galactique comme à la belle époque.
Bon, tu sais, en général, quand tu fais deux fois la même connerie, à un moment donné, c'est... t'as compris. Hein. Mm. Soit t'as pas appris, soit t'es...
T'as compris. Mais alors, comment cette équipe de rêve a-t-elle pu échouer à s'inscrire dans la durée ?
Le Real Madrid tombe face au 17ème de deuxième division !
Que s'est-il passé ?
Ce club est-il inentraînable ?
Le Real est en crise. La semaine dernière a été très agitée. Cette défaite en finale de Supercoupe d'Espagne, le changement d'entraîneur, l'élimination en Coupe du Roi face au 17ème de D2 Albacete. Parlons-en avec Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne, en direct de Madrid. Salut Edgar.
Salut messieurs, il y avait des obscénités là dans le jingle.
Ah ouais, bah c'est Steve, on s'est régalé.
Salut Edgar, ça va Edgar? Bon. T'es en forme?
Ça va très bien, ça va très bien. Je suis pas très loin, tiens, des supporters monégasques. Le parquage est en train d'être filtré là pour entrer dans le stade. 2500 personnes.
Alors ouais, parle-nous de ce climat délétère à Madrid en ce moment, Edgar.
Oui, c'est vrai que c'est ce qui retient l'attention de tout le monde ici. Ce sont les sifflets lors du dernier match face à Levante. Donc toute la composition d'équipe, toute l'annonce de la composition d'équipe avait été sifflée. Tous les joueurs, hormis Gonzalo Garcia. Et puis ensuite, pendant le match, Vinicius Junior avait été hué et sifflé dès qu'il touchait le ballon. C'était le cas aussi pour Bellingham et Valverde à moindre mesure. Et ce qui a vraiment marqué les gens, ce sont des cris, des pancartes. Florentino démission, Florentino dehors. Et ce sujet là vraiment obsède la presse espagnole qui a posé énormément de questions sur ce point lors des dernières conférences de presse qui tournaient quasi uniquement autour de ça. Florentino Pérez, il est accusé d'être l'un des responsables de la situation pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'a pas suffisamment recruté selon pas mal de supporters, parce qu'il n'a pas remplacé par exemple Modric, Toni Kroos, parce qu'en défense c'est vrai que le Real Madrid bricole un petit peu depuis un an et demi. Il est critiqué parce qu'il a peut-être pas assez pris la parole aussi autour de la crise actuelle, parce qu'il n'a pas soutenu son entraîneur Xabi Alonso dans les moments tendus avec le vestiaire madrilène. Et en 2006, Florentino Pérez avait démissionné de son poste en disant « J'ai mal éduqué les joueurs, c'est-à-dire mal habitué, j'ai gâté les joueurs » et les supporters craignent justement qu'il soit peut-être en train de faire la même erreur qu'à l'époque des Galactiques.
C'est Roten se chauffe ce soir, la crise au Real. Est-ce que le modèle Pérez est périmé? On en débat dans un instant, juste le temps de vous dire que Manchester City est mené 2-0 en Norvège par Bodø/Glimt, 2 buts coup sur coup, inscrit à l'instant par Hogg, donc doublé pour lui, et 2-0 donc c'est pour le club norvégien. Jérôme, est-ce qu'il est fini, périmé, ce modèle Florentino Pérez alors?
Écoute, je sais pas s'il est fini. Ce qui est sûr, c'est qu'il a trouvé les ingrédients pour il y a 2 ans gagner encore la Ligue des Champions. Il y a que 2 ans hein, que le Real a gagné la Ligue des Champions.
On l'oublie trop vite.
Oui, donc ça veut dire que
depuis c'est pas grand chose.
Non, mais
c'est une Super Coupe d'Europe.
Non, mais que sa méthode, elle a fonctionné.
Je suis pas sûr qu'il a gagné cette année non plus. Hein.
Non, à mon avis non. Mais si tu dis ça, tu te dis bon bah écoute le palmarès. Et comme ça de Florentino Pérez, il est forcément aussi responsable de ce palmarès qui est impressionnant sur les dernières années. Donc j'ai du mal à dire que lui est cramé. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il a, je pense, vu trop beau cette dernière victoire en Ligue des Champions. À commencer par des joueurs qu'il a valorisés comme des joueurs des stars entre guillemets, et pourtant c'est pas des stars. Edgar nous parlait des joueurs qui étaient sifflés. Alors Vinicius, je vais pas aller sur ce terrain-là parce que je pense, vu le niveau qu'il a atteint il y a 2 ans lui, et ils lui doivent beaucoup sur la victoire en Ligue des Champions. Il l'a pas atteint par hasard. Il a un talent incroyable. C'est vrai que depuis 2 ans c'est décevant. C'est décevant dans ses perfs, mais c'est décevant dans son attitude aussi. Ça c'est vrai. Bellingham a profité du fait que
Bellingham il a fait la saison de sa vie.
Oui, c'est vrai, la saison de sa vie du gars. Et en plus, si tu refais le film de cette année-là, ils le doivent beaucoup cette victoire à Vinicius. Bellingham, par moment, il était transparent.
Il fait même 6 très bons mois et après il s'éteint.
Exactement.
Un peu en cours de saison.
Lui a été surcoté par rapport à cette année-là, et les joueurs autour, pareil, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, ils te mettent dans le nez à chaque fois. Oui, mais nous on a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Alors nous on fait partie des meilleurs. Non, tu fais pas partie des meilleurs, parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui et depuis 2 ans, le Real se fait attraper contre des équipes moyennes. Donc ça veut dire que le niveau d'exigence, le niveau moyen, il est pas si élevé que ça par rapport à il y a quelques années où le collectif était bien meilleur, bonifié par certains grands joueurs. Et aujourd'hui, il y en a pas. Donc en effet, il y en a pas assez. Et le modèle Pérez, est-ce que il a tout mis sur Mbappé et ça l'empêche, si tu veux, de pouvoir recruter des joueurs importants et des grands joueurs? C'est une possibilité, mais ça, il faudrait qu'il nous l'explique. Et si c'est le cas, en effet, ça veut dire qu'il s'est trompé. Et mais tu peux te tromper et tu peux revenir en arrière.
Il y a un gros salaire, mais le transfert était gratuit.
Ben oui, et puis et regarde cet été, Huijsen, 60 millions d'euros, Carreras, 50 millions d'euros, et Mastantuono, 63 millions d'euros.
Il est là, les erreurs. Oui, attention, Pérez, est-ce qu'il est responsable de tout? Est-ce que c'est lui qui fait le recrutement? Alors, je sais pas comment c'est fait là-bas. C'est qui le directeur sportif là-bas?
Non, mais par exemple, Juni Calafat est celui qui mène un petit peu le recrutement. C'est évidemment un nom qui est beaucoup moins connu de tous, mais il peut aussi être tenu responsable de ces erreurs-là.
C'est saupoudré au Real Madrid. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, chacun recrute son joueur, voilà. Personne ne dit rien ou respecte en se disant voilà, comme ça les vaches sont bien gardées. L'entraîneur va en choisir un ou deux, le directeur sportif va en prendre un ou deux, et Florentino Pérez va en prendre deux ou trois. Voilà, c'est comme ça là-bas que les choses se passent. Et en général, tu ne te dis jamais que Florentino Pérez, par exemple. Et c'est pour ça, moi pour être sincère, pour être totalement transparent, j'en avais parlé avec Zizou de ça, de justement comment ça se passait. Il expliqué que chacun avait son mot à dire, bien évidemment, mais que Florentino Pérez prenait la décision de prendre certains joueurs. Et que, alors pas tous, mais certains joueurs, et que tu ne discutais même pas, parce que tu savais que dans la tête de Florentino Pérez, dans sa manière de fonctionner, il allait te prendre 2-3 joueurs de classe mondiale. Parce que Florentino Pérez ne fonctionnait que comme ça à l'époque des Galactiques et à l'époque des grands joueurs. Florentino Pérez ne prend que des Galactiques, que des joueurs monstrueux. Tu n'es jamais en
conflit. Tu vas pas aller contre lui quand il prend choix.
Bien sûr, parce que tu sais toujours que ce sera des bons joueurs. Donc c'est l'espèce d'harmonie qui se fait comme ça. Après, t'as le directeur sportif qui fait des choix, t'as l'entraîneur qui fait des choix.
Est-ce que ça a pas une limite, du gars, ce système?
Sauf que là, du gars, tu vois, ce système-là, avec le recrutement qu'il y a eu, il s'est trompé.
Ah non, mais moi si pour me poser la question à moi, je pense que le plus gros problème du Real Madrid, c'est qu'ils ont trop de joueurs qui ne sont pas au niveau du Real Madrid. J'étais encore en train de regarder les compositions d'équipe et les achats des joueurs, que ce soit Carreras, que ce soit Huijsen. Je suis désolé, mais ils montrent, la seule chose qu'ils montrent, à part le prix de leur transfert, c'est qu'ils n'ont pas le niveau et que le costume est trop grand. Après, il faut arrêter de se poser des questions. Je l'ai connu, j'ai été un bon joueur de football, mais je n'avais certainement pas ni les épaules, ni le mental, ni tout ce qui va avec pour être un joueur du Barça ou peut-être du Milan AC aussi. Ces clubs-là, c'est autre chose. Après, quand tu es acheté dans ces clubs-là, il faut avoir quelque chose de plus que d'être un bon joueur, que d'être un excellent joueur. Je te dis pas que ces joueurs-là sont mauvais. Je te dis que ces joueurs-là ne sont pas des joueurs Real Madrid. Et quand je vois ce milieu de terrain, ce n'est pas un milieu de terrain Real Madrid. Je suis désolé, ça manque de qualité technique, ça manque de tellement de choses. Je fais pas offense à Tchouaméni, je fais pas offense à Camavinga, qui sont de très bons joueurs. Mais au bout d'un moment, quand tu franchis pas ce palier de manière régulière sur la durée, tu montres pas cette régularité. Bellingham, c'est la même chose. Vinicius, 25 ans, il est encore jeune. Peut-être que lui, oui, c'est un joueur estampillé Real Madrid, peut-être, mais d'autres, je pense au petit Turc, qui est un très bon
joueur,
qui est un très bon joueur. Mastantuono, très bon joueur. Alaba, Valverde, très bon joueur. Mais c'est pas estampillé Real Madrid. Je trouve que moi, le Real Madrid, même s'ils ont gagné des choses il y a maintenant 2 ans, je trouve qu'ils ont baissé en gamme, qualité de joueur. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher à Pérez. Alors peut-être qu'ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas voulu les mettre parce que le stade a coûté cher, parce qu'ils ont tout misé.
Mais ils ont mis quand même, Benoît, je rappelais les transferts, ils ont mis de l'argent.
60, 50, 63.
Sur Mbappé, oui, mais ils se sont trompés à ce niveau-là. Ils ont pris des joueurs en devenir. Ils n'ont pas pris des joueurs confirmés. Le Real Madrid doit prendre des joueurs installés, confirmés. Moi, je veux bien prendre des joueurs en fin de contrat, que ce soit Alaba ou que ce soit l'Allemand, comment il s'appelle, le défenseur central,
Rüdiger.
Rüdiger. Mais très bien, mais c'est des joueurs qui jouaient déjà plus dans les clubs où ils étaient. Ils jouaient déjà plus. Parce qu'ils sont gratuits, ils sont devenus estampillés Real Madrid. Mais non, je suis désolé. C'est
non, mais avant, c'était le festival de Cannes, mais attends, c'est le festival d'Avignon.
Exactement.
C'est le festival d'Éric Dimeco.
C'est Galéjade.
C'est Galéjade. Galéjade.
Steve, vas-y, Steve.
Bah, moi, je suis assez triste pour mon deuxième club de cœur au monde.
De cœur.
Bah ouais, en tant que fan, hein, je dis bien en tant que fan.
Ah bah non, mais ça, sans blague.
Ouais. Mais non, moi je suis triste parce que je trouve que cette année et puis il y avait quand même un petit peu un suivi par rapport à l'année dernière, mais c'était un peu sous-jacent parce qu'on voyait des anciens qui commençaient à finir. Je pense voilà à Kroos, Modric, voilà ce milieu de terrain, et je crois que c'est ça qu'il veut dire aussi du gars, c'est que tu sens que c'est mecs qui sont à un tel niveau dans ce milieu de terrain avec cette culture du milieu de terrain et
t'as raison, c'est sous-jacent ça. Mais
non, c'est-à-dire que non, mais
le milieu
ça
du PSG et le milieu de terrain,
tu vois, ça sentait parce qu'on se disait
on se disait déjà
est-ce qu'ils ont préparé l'avenir, en fait, est-ce qu'ils ont préparé l'avenir. Et puis je crois pas que le Real Madrid soit un club de paris. C'est pas un club qui parie sur l'avenir. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit estampillé. Très gros joueur, très gros international. Il soit une référence.
Donc ce
déjà
modèle peut perdurer, parce que c'est l'angle du débat. Donc pour toi, ça peut durer,
surtout,
ça doit durer.
Je pense que surtout, c'est que, et je crois que la meilleure analyse du Real Madrid, je crois que c'est Karim Benzema qui l'a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il a commencé à dire les joueurs, déjà offensivement, il va falloir qu'ils jouent vraiment à leur poste, et que chaque joueur comprenne que chaque joueur est bon à son poste et ne commence pas à dézoner, à venir empiéter sur d'autres choses, et surtout en termes de responsabilité.
Mais je pense qu'ils sont donné, même, ils sont même pas à ça aujourd'hui. Hein,
il va falloir à un moment donné que ça soit très clair, parce que c'est pas clair au final. C'est qui le patron du Real de Madrid? Je parle sur le terrain.
Bah c'est Mbappé.
Et bah ouais, mais c'est pas officiel. C'est pas réellement officiel.
Voilà, il y a plus photo là.
Non. C'est pas officiel. C'est pas officiel.
Bah, Edgar, faut qu'il voit tous les matchs.
Bah, ils vont pas sortir un communiqué pour dire que c'est Mbappé leader. Mais évidemment, Mbappé leader. Et dans les déclarations d'Arbeloa, il suffisait d'entendre sa déclaration après le match de Levante. On aurait cru qu'il allait demander un autographe.
Il faut arrêter de les écouter.
Arbeloa, on sait même pas s'il va être là la semaine prochaine.
Alors, tiens, José. José, supporter de Real, veut participer à notre débat dans Rotten sans flamme.
Salut, José.
Salut à tous.
Bonsoir, José.
Bonsoir,
qu'est-ce que t'en penses, toi, du Real Madrid?
Alors, le Real Madrid, alors, la question, c'était, est-ce que le modèle de Florentino Pérez est terminé? Alors, s'il faut répondre oui ou non, moi, je dis non. Florentino Pérez, c'est la figure paternelle, comme il y avait eu Bernabéu, etc., etc. Florentino Pérez, on parle souvent de lui, quand un joueur arrive, est-ce qu'il recrute pas Florentino Pérez, c'est un club qui était endetté jusqu'au nez et qui l'a sorti quand même de la mouise. Valdebebas, où aujourd'hui tout le monde s'inspire un peu du centre, c'est lui. Le Bernabéu, c'est lui. La Super League, on en pense ce qu'on veut. La Super League, c'est une machine à projet. C'est quand même quelqu'un qui a annoncé le football d'aujourd'hui. Très vite, il l'a dit. Quand les Qataris sont arrivés, etc., il a dit, nous, on va pas pouvoir lutter avec les clubs États, etc. Il faut qu'on invente un modèle, etc. Là-dessus, Pérez, élu par les socios, au niveau de l'expertise technique, machine à projet, il est...
Oui, c'est un cador.
C'est un cador. Je tiens quand même à vous rappeler que Ramos est arrivé, ça faisait 6 mois qu'il jouait en Liga, il avait 18 ans.
Sergio Ramos.
Marcelo est arrivé ado, Casillas.
Ah non, mais il a eu des bonnes. Il a eu des bonnes choses, mais Duga en parlait. Voilà. Dans le modèle de recrutement et tout ça, même dans la sensibilité, il a fait des super choses. Maintenant, sur les dernières années, il faut reconnaître, allez, on va dire sur les deux dernières années, bah, c'est quand même moins bien, quoi.
Mais t'es condamné dans ce club, qui est un club à part, je l'ai connu, moi aussi, au Barça. Progresser, ce n'est pas suffisant.
Mais oui.
Il faut deux, ça va à une vitesse, tout est décuplé. Oui. Il faut que de suite tu t'imposes, de suite tu sois fort, de suite tu sois très très fort, tu montres un mental, tu montres du physique, tu montres de la qualité technique, avec une espèce de chape de plomb qui est forte, parce que l'institution, elle est tellement énorme, ce que représente ce club. Moi, je l'ai vécu à Barcelone. C'est tellement énorme, la concurrence que tu vois.
tous ces bons joueurs qui sont au Real Madrid ne sont peut-être pas suffisamment affirmés pour porter ce costume aujourd'hui, et peut-être que dans 2, 3, 4 ans, ce sera trop tard. Mais c'est pas le bon moment aujourd'hui de prendre des joueurs comme ça. Alors après, attention, le Real n'a qu'un point de retard aujourd'hui en championnat sur le Barça.
Et ils sont 7e de Ligue des Champions, de la phase de Ligue.
Aujourd'hui, en termes de résultats, c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai qu'on est quand même globalement déçu de ce qu'on peut voir.
C'est sûr. Edgar, juste un mot sur l'ambiance qui attend les Madrilènes ce soir. Ils vont encore être sifflés. Est-ce que la victoire face à Levante, ça fait redescendre un peu la pression, ou est-ce qu'ils sont attendus au tournant là?
Alors, ça n'a pas fait redescendre la pression. Maintenant, c'est un petit peu dur à dire parce qu'il y a toujours la grada fans qui s'appelle. Donc, c'est, vous savez, tous ceux qui sont en blanc derrière le but. Ouais. Eux, ils sont gérés par le club. Donc, eux, ils ne sifflent pas et donc, eux, ils vont chanter. Est-ce qu'ils vont être suivis par le reste du stade, ou est-ce que le reste du stade va continuer à siffler? On verra bien. Certains médias madrilènes ont appelé à ce que tout le monde soit acclamé et que ce soit un petit peu l'union sacrée. On verra la réponse de tout le monde, et c'est vrai que ça va être une interrogation et un vrai enjeu de ce soir. Et pour rebondir juste sur ce que vous disiez sur la direction et sur Florentino Pérez, effectivement, tout le monde parle de Florentino Pérez sur tous les sujets, et on parlait tout à l'heure des autres. Je vous parlais du directeur du recrutement, le directeur du football par exemple, c'est Solari. On n'entend jamais parler, et peut-être que ça pourrait enlever aussi la pression et toute l'image sur Florentino Pérez si les autres membres de la direction étaient
Plus présents,
ils auprès du grand public.
Ils n'ont pas l'occasion ou l'opportunité de parler. Hein. Peut-être que c'est Pérez aussi qui veut absolument prendre la parole.
Mais ça, c'est une stratégie du club. Voilà. C'est une stratégie du club. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ça, c'est un débat aussi.
Edgar, merci. Tu seras en commentaire ce soir à partir de 20h l'After Live et 21h le coup d'envoi sur Real Madrid-Monaco. On a hâte de suivre ce match pour les Monégasques dès 21h donc sur RMC. Merci à José qui est venu au 16. Et dans un instant, attention, la VAR de Roten sans flamme, le discours magnifique de Pierre Sage à la mi-temps de Lens Auxerre. Est-ce que Pierre Sage est en train de changer de dimension? 32-16, supporter lensois pour en débattre avec
José Mourinho.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h29 sur RMC, la dernière demi-heure de Roten sans flamme. Déjà la dernière demi-heure, mais elle va être excellente cette dernière demi-heure. On va parler de Pierre Sage, le coach leader de Ligue 1, qui domine la Ligue 1. Eh oui, c'est qui l'eût cru.
Mais le meilleur coach français actuel.
On va en parler dans un instant. On est avec Benoît Boutron, avec Christophe Dugarry et avec Steve Savidan. Et à 19h45, comme d'habitude, pour finir cette émission en beauté, le quiz magnifique de Roten sans flamme.
Un an. Oui, Gerbier sera là. Saveur noisette, le temps des cerises, maison de café qui vous propose son irrésistible café noisette, adapté à votre mode de préparation. Soit du café en grains, soit moulu, soit capsule.
Et le café, ça se boit court. Hein.
Ça se boit court. Espresso, toujours. Café long, on n'est pas des Américains. Exactement, on est d'accord. C'est livré directement chez vous pour remporter du lait, un an de café. Respectons les traditions.
J'embrasse ma sœur qui le prend avec beaucoup d'eau.
D'habitude, c'est Pascal qui embrasse ta sœur, cette fois, c'est toi.
Ouais. Voilà, on l'embrasse tous, ta sœur.
Vous pouvez. Hein.
Bah oui, ils nous écoutent de temps en temps.
Envoyez quiz par SMS.
Pas tout le temps, je vais pas vous dire, mais.
16, quiz au 732-16. Ah, tiens, moi, j'embrasse Jean-Pierre Roten, à qui je pense.
Oui, alors là, il écoute, mais je pense qu'à cette heure-là, il dort.
Sacré Jean-Pierre, on le fera venir un jour, tiens, dans la tête sans flamme.
Jean-Pierre.
Quel phénomène.
Jean-Pierre.
Jérôme, l'arbitre vidéo t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
On ne peut pas partir à la guerre si on n'est pas des combattants. On ne peut pas partir à la guerre si on n'a pas de stratégie.
Wow.
On ne peut pas partir à la guerre si on ne veut pas becquer l'adversaire.
Wow.
Aujourd'hui, on vit un match, et ben dans 5 minutes, c'est un tout autre match. C'est le match d'une équipe qui va chercher une victoire, une première place, et l'histoire de son club. C'est ça qui vous amènera en haut. Et vous êtes capables. Donc on y va.
Allez.
La VAR de Roten sans flamme.
Et oui, le discours fédérateur de Pierre Sage à la mi-temps de Lens Auxerre samedi. Il y avait 0-0 à la pause. Les Lensois ont finalement gagné ce match 1-0. C'est la 8e victoire d'affilée en Ligue 1 pour Lens. C'est un record dans l'histoire du club. Lens est leader du championnat. 43 points pris en 18 matchs. D'ailleurs, petite stat, je sais que vous adorez ça. Dans l'histoire du championnat de France, avec un tel bilan après 18 matchs, seules 3 équipes n'ont pas été sacrées championnes de France. Donc c'est... Alors il y a eu quelques équipes, il y a eu Nice une fois, 3e de Ligue 1, il y a eu des équipes également dans les années 60. Mais c'est donc le thème d'aujourd'hui, est-ce que Pierre Sage est en train de changer de dimension? 32-16 supporters lensois pour en parler avec nous. Jérôme, il faut saluer son travail quand même.
Non, je reviens pas. Je reviens pas. Du discours.
Bah non, mais c'est fort quand même.
Bah ouais, on aurait dit José Mourinho.
Alors, il est en longueur sur les réseaux sociaux du club, hein, d'ailleurs.
Non, si vous voulez l'écouter. Mais blague à part, moi je le chambre souvent. Alors certains disent que c'est un délit
de second degré.
C'est un délit de sale gueule avec Pierre Sage. Comme les gens accusent Duga d'avoir un délit de sale gueule avec De Zerbi, c'est pas parce que je fais de temps en temps. Et peut-être que je suis lourd, en effet, à faire du second degré sur Pierre Sage, sur la façon d'animer ses confs de presse où on a a tendance à s'endormir, c'est la réalité. Il aime pas ça, certainement qu'il aime pas ça et qu'il préfère le contact avec ses joueurs, le vestiaire, le truc. La preuve, c'est que de toute façon, ils sont pas leaders par hasard. C'est que t'es un entraîneur qui est entraînant. Donc, même dans son discours, dans ses choix, mais aussi dans son discours, la preuve, c'est qu'il est capable de péter un câble quand Lens c'est pas bon. Et ce qui était le cas, le match de ce week-end, même si c'est la mi-temps du match et que derrière ça lui a donné raison parce que Lens a écrasé Auxerre 1-0, mais en étant sérieux, bah ouais, Auxerre, c'est ce que j'ai dit. En étant,
ouais, mais c'est ça, oui,
en étant sérieux, Lens a fait peut-être son plus mauvais match de l'année, un des plus mauvais matchs, parce que le match à Metz où ils avaient perdu avait vraiment pas été terrible. Donc, tant mieux, ils ont la réussite, c'est la réussite du champion pour l'instant. Que ça dure comme ça, que Pierre, à l'arrivée, il se force un peu, parce que c'est pas dans son ADN de pousser des gueulantes comme ça et tout ça, qu'il se force et qu'il surprenne ses joueurs. Il les a surpris, ça les a remotivés pour la deuxième mi-temps, ils sont allés gagner. Tant mieux, tant mieux. Après, de là à nous dire que ça y est, c'est devenu un Roland Courbis. Non, tu vois, Pierre ne sera jamais.
On parle de tout son aspect d'entraîneur.
Mais de toute façon, ce qu'il fait,
ses compétences, tout ce qu'il met en place,
je le redis, avec les moyens. Tout à l'heure, on parlait des moyens limités de certains clubs ou certains coachs qui, malheureusement, on leur a coupé la tête. Hein, je pense à l'entraîneur de Metz là qu'on a
le viré aujourd'hui. Remplacé par Benoît Thévenot.
Exactement. Bah, on embrasse Benoît et on le félicite parce que c'est un ami de Rotten sans flamme.
Qui avait démarré la saison à Bastia et qui avait quitté son poste.
N'empêche que Pierre, avec les moyens qu'il avait au début de l'année, avec Jean-Louis Leca qu'on avait reçu plusieurs fois dans Rotten sans flamme, on sait qu'ils étaient à la recherche d'attaquants, mais ils n'avaient pas les moyens. Un attaquant, il fallait mettre moins de 10 millions. Tu te rends compte, un attaquant en Ligue 1 qui marque des buts, t'as que 10 millions de budget pour recruter. Donc, bien sûr qu'il a fait. Il fallait faire jouer l'intelligence tactiquement, comment renforcer des joueurs, comment les faire progresser. Et Pierre, en très peu de temps, il l'a fait. Mmh. Et franchement, ce qu'il fait, c'est remarquable. Donc, bravo. Bravo pour ce discours, ça a marché à la mi-temps. Après, je vais te dire encore une fois, on va attendre parce que il le sait très bien, ça reste fragile.
Alors, on peut attendre du gars, mais on peut féliciter le travail quand même. C'est impressionnant, la saison réalisée et le travail de Pierre Sage.
Exactement. Non, mais féliciter ce discours, féliciter cette attitude, qui moi ça me parle, ça me j'aurais été joueur, je me mets à la place des mecs et écoute, je j'entends ce discours, ça peut me motiver, ça donne envie, ça a fonctionné, peut-être que je connais pas moi.
Tu devrais te le mettre en podcast avant d'aller jouer le matin.
Pourquoi pas. Ouais, je connais pas Pierre Sage personnellement, mais si sa nature n'est pas celle de faire des choses comme ça, il est en train de dépasser sa nature.
C'est vrai.
Il est en train d'aussi, lui peut-être aussi se révéler dans certaines situations. Je n'en sais rien. Moi, je trouve ça super. Après, le seul bémol que je veux mettre aussi à la fantastique épopée et performance des Lensois, c'est la réussite. Ils ont une réussite à toute épreuve. Pas l'enlever et l'oublier. Alors tu me diras, et je l'ai déjà suffisamment rappelé à la radio, quand tu veux gagner un titre ou une compétition, cette réussite, réussite est essentielle. Voilà, tu ne peux pas gagner quoi que ce soit sans la réussite. Mais faut pas faire abstraction de ça. Toutes les planètes sont alignées. Alors attention, ça n'enlève rien au miracle Lensois avec un budget, je rappelle, de 60 millions d'euros.
Ah mais non,
ils ont
mais c'est miraculeux. D'avance
sur l'OM. L'OM, le budget, c'est 260 millions d'euros.
Ils ont 200 millions à peu près.
Ils ont 4 fois plus de 4 fois plus le budget, 4 fois moins le budget de l'OM. Imagine ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc l'exploit de ces joueurs, de ce staff, de ce président et de cet entraîneur est pour l'instant remarquable. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Je n'en sais rien. Mais ils ont quand même cette petite réussite, ces dieux du football qui sont aujourd'hui.
Et que le PSG soit
dans
bon
le
nord
et qui sont Lensois. Ouais. Voilà. Mais même dans leur performance, sans parler, mais tu dirais une chose, même sans parler des autres, quand tu vois le contenu des matchs, ils ont gagné bon nombre de matchs qui méritaient peut-être.
Mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
Gagner aussi, c'est vrai. Tu vois,
ils ont encaissé que 13 buts.
Et par beaucoup, voilà. ils gagnent du gars par la petite.
Par 1-0.
Bah ouais, c'est souvent des 1 but d'écart. Mais bon.
À l'essentiel. Ouais. Mais regarde la contradiction. Regarde l'OM. L'OM, ils ont 8 points de retard sur Lens. Ils ont meilleure attaque du championnat.
Ouais.
Et je crois, 5e meilleure défense.
Troisième
meilleure défense du championnat. Imagine.
Ah oui,
tu
oui.
Tu te rends compte.
Ah ben oui. Et il y a 8
points
d'écart.
De retard sur Lens. Donc.
Ouais, et puis comme tu disais en termes de budget là, l'OM va enchaîner deux matchs hyper importants, le match de demain contre Liverpool, mais la réception de Lens.
De Lens samedi.
Et en effet, s'ils veulent se relancer sur le podium et tout ça, il faut gagner ce match-là. Mais quand tu vois, tu compares les deux budgets qui sont, c'est abyssal, l'écart comme ça, quatre fois plus. En toute logique, on se dirait sur ce match, Marseille largement favori.
Sauf que
aujourd'hui non.
Aujourd'hui n'est pas la même d'un côté et de l'autre.
Mais aujourd'hui, je vais te dire, Marseille va falloir qu'il sorte un gros match pour bousculer les Lensois.
Steve. Bah, il change de dimension. Bah, on espérait cette trajectoire. On rappelle que c'était un cas d'urgence à l'OL. On l'a vu bosser, on a vu stabiliser l'OL. Là, on le voit arriver sur Lens. On se dit, comme Dugas le dit tout à l'heure, budget pas top. Bon, tu te dis avec le public, tu vas réussir à faire peut-être une place européenne. Tu vas tomber dans un bon mood. Tu as peut-être deux, trois équipes qui vont pas être au rendez-vous. L'agréable surprise, c'était le champion d'automne, quand même, devant le PSG. Ils ont de la réussite sur leurs résultats parce qu'ils gagnent peut-être par la plus petite des portes, mais ils ont une stabilité défensive. Ça, on peut leur accorder. Ils ont de la réussite, mais ils la provoquent. Ils ont le concours de circonstances, et je le rappelle, que le PSG soit pas au rendez-vous quand même, parce que c'est quand même
il y a qu'un point de retard, mais en tout cas
ouais, ouais. Ils sont quand même pas au rendez-vous. Ils ont réussi à profiter, et je reviens tout à l'heure sur ce qu'on disait sur l'OM, de la contre-performance du PSG pour leur prendre la première place et être au rendez-vous. Ils sont sur une trajectoire très positive aujourd'hui. Vraiment parler du titre, oui, on peut en parler, de lui dire qu'il change de dimension au travers de son discours. Et c'est là qu'il faut être attention. On n'est pas des supporters et on est quand même des gens qui ont participé à des causeries. On a vu des causeries.
Non, mais on ne parle pas que du discours. C'est pour illustrer le sujet.
Non, mais parler du titre, Steve, c'est prématuré, quoi. Tu vois, pour l'instant, le podium, oui, place en Ligue des Champions, ce qui est déjà miraculeux pour eux.
Mais pour revenir à sa causerie. On a vu des causeries, maintenant c'est la mode de tout digitaliser, de sortir un effet, des phrases d'un esprit de vestiaire pour en faire une storytelling. Pierre Sage, il sait parler, ça on le sait, il est pas teubé, il sait manier un groupe, ça on le sait, mais on n'a pas besoin de la confirmation qu'il a changé de dimension pour justement assister à une causerie. On sait qu'il est capable de manipuler ses joueurs, de les motiver, il l'a montré maintes et maintes fois. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Pierre Sage, on se rend compte, et le grand public se rend compte, que cet entraîneur, ses joueurs croient en lui. Parce qu'il y a eu une réaction. Faut se le dire aussi. Mmh. Et il y a eu un résultat positif. Parce que tu peux faire des superbes causeries, hein. On le voit tous les week-ends, tu regardes Instagram, des coachs de R2 que je connais.
Ah, oui, il y en a qui parlent bien. Bah oui.
Ah, mais il y en a qui parlent bien. Ouais. Par contre, est-ce que ça se traduit sur le terrain en comportement?
C'est ça. Mais c'est ce que dit toujours ces gars.
C'est pour ça qu'il faut
un entraîneur qui fait progresser son équipe. Et là, tu le vois.
Et là, on revient tout à l'heure. On voit une progression, une amélioration de cette équipe et de ses joueurs. Donc ça veut dire qu'il arrive à manipuler positivement ses joueurs.
Et Lens, on l'a dit, le grand rendez-vous, ce sera samedi soir, 21h05, à Marseille. Match à suivre sur RMC, la 19e journée de Ligue 1. Dans un instant,
match, hein.
Les compos des matchs du soir en Ligue des Champions, l'avant-dernière journée de la phase de poule. Les compos de Sporting PSG, de Real Madrid, AS Monaco et puis le quiz, tous contre Rotten.
Ah bah oui.
Jérôme face à la doublette, Savidan, Dugarry. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h20, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h45 sur RMC. Ben oui, branchez-moi le micro. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais c'est pas possible. Antoine et Niki en régie, ils sont complètement perdus. On est avec Benoît Boutron. On est avec Steve Savidan, Christophe Dugarry. C'est le moment du quiz de Louis Gerbier. On est en mode Ligue des Champions. On va vous.
Avec un quiz de Ligue 2.
Pourquoi?
On va connaître les compositions d'équipe, si ça t'intéresse, du Real
Monaco Sporting PSG.
Sporting PSG.
Exactement.
Dans un instant.
Dans un quart d'heure, l'after live. Dès que les compos tombent, nos correspondants nous appellent, mais tout de suite, c'est donc le quiz.
RMC, tous contre Rotten.
Alors, avec Louis Gerbier, niveau Ligue des Champions. Salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Vont s'affronter ce soir. Un certain hommage à RMC, au Super Moscato Show, puisque Pierre et Dorian vont s'affronter ce soir. Salut à vous deux.
Le plus intelligent.
Ça va les gars?
Le plus intelligent, le plus grand mais surtout.
Moi je suis sur le parking de l'entraînement là parce que j'ai l'entraînement dans 5 minutes et du coup j'attendais.
L'entraînement. Mais qui dit ça? C'est vrai ou Dorian qui dit ça?
C'est Dorian.
Ok Dorian. Et quel club alors? Quel club?
Moi, je joue un petit niveau, je joue en R3, moi, mais je suis sur le parking de mon entrée.
Bah, c'est excellent, on a plus des coéquipiers.
À mon avis, reste sur le parking, ça sera plus intéressant.
Alors, c'est de la R3, est-ce que tu veux jouer avec Steve Savidan?
Ouais, avec plaisir.
Eh ben, allez, magnifique. Ouais. Donc, Dorian avec le reste du monde et Pierre avec Jérôme. Ça te va, Pierre?
Moi, je suis en vétéran, je suis bien avec Jérôme, tu vois.
Ah bah,
avec le club de Montmerle.
Magnifique, on les embrasse aussi, Montmerle. Ouais.
C'est un grand club.
Vas-y, Louis.
Énorme club, énorme.
Bon, Florentino, là, il paraît que c'est la fin des haricots. Là. Ah là, le modèle Florentino, j'ai écouté une émission hyper calée sur le sujet et j'en ai conclu ça.
La meilleure émission du PAF.
Exactement. Ah ouais. Donc, je vais vous faire un thème, le Real Madrid de Florentino Pérez. Attention, période 2000-2006, la première.
Ouh,
il va falloir un peu voilà, les neurones, tout ça. Okay. Et je remercie mon pote Clément Charton, supporter numéro 1 du Real en France.
Ça, c'est intéressant.
Qui m'a aidé et qui m'a soufflé des bonnes idées.
Mais qu'est-ce que tu Clément pour citer son nom comme ça.
Non, c'est juste mon pote qui m'a aidé.
Ouais. Ah, s'il vient de Châteauroux comme toi, on est mal barré.
Ouais, le mec se fait écrire les quiz.
Ah, il vient de Vierzon.
Oui, voilà. Ah, Vierzon, ouais.
Maintenant, j'ai des auteurs, écoute. Voilà.
Il vient de. De Vierzon.
Voilà. Ouais. Allez, on y va tout de suite avec une première question flash. Lors de ces deux périodes à la présidence, combien de Ligue des Champions le Real a-t-il remporté?
Ah,
oh là. Ouais. Cumuler les deux là.
4?
Oh non, plus que ça.
C'est plus.
8.
C'est moins.
6.
C'est plus.
C'est 7.
Oui,
c'est
7.
Du gars, ça va
toi, sinon ils m'ont dit scoring, t'arrives à compter les points quoi.
Excusez-moi, non, mais j'ose plus rien dire parce qu'après on va me faire un procès si je dis quelque chose qui ne convient pas.
Tu t'es bien défendu, t'inquiète. 1-0 pour Jérôme et pour Pierre.
T'as pas de raté.
C'est une question de Pierre Charton ça ou pas?
C'est Clément, mais non, celle-là c'était la mienne. C'est peut-être pour ça qu'elle était pas dingue. Ouais.
Allez, on enchaîne. Tu nous dis quand c'est celle de Clément.
Ça marche, question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer.
Quel joueur rencontré par les Bleus de Duga à l'Euro 2000 est la première recrue star de Florentino?
Bravo.
Et voilà. Eh oui, 2-0.
Quand même. 2-0. Allez, maintenant on va vers les auditeurs les plus intelligents d'entre nous.
Ah, Pierre Dorian.
Allez Pierre, allez.
Allez.
Quel était le surnom de l'équipe pleine de stars à l'époque?
Galactique.
Bravo.
C'est Pierre.
Ça, c'est une question de Clément aussi.
Non, c'est à moi.
Pierrot, 3-0, mon
Jérôme. Ouais, bien joué, Pierrot.
3-0 pour Jérôme.
Magnifique.
À Dorian, ça va pas aller vite à l'entraînement.
Duga et Steve misent tout sur la routaine. Mais bon. Il reste 6 minutes, les gars.
Il reste 6 minutes, c'est beau.
Deux fois où on s'est fait enfler par la routaine.
Jamais. C'est pas son genre. Arrêtez un peu à le dénigrer comme ça. Florentino, question flash. Dès que Jérôme est de retour avec nous,
il est là. Pas de menace sur la régie.
Il est très menaçant.
Il menace pour la routine, mais il est fou.
Mais du tout. Florentino prenait deux joueurs de son équipe en exemple. Question Clément Charton.
Ah, oula.
Florentino prenait deux joueurs de son équipe en exemple pour définir les Galactiques comme des stars mélangées à des joueurs du cru. Il disait il y a les Zidane et les
Ramos.
Non.
Non.
Raoul.
Non.
C'était un défenseur central.
El
Guerra.
Facile, capitaine.
Les Ramones.
Pavones.
Les Ramones. Allez, réduction de l'écart du reste du monde. 3-1 pour Jérôme.
Pavone qui a fini sa carrière à Arles-Avignon.
Alors là, je mets une pause de quiz. On arrête. Non, pas de compo, mais on arrête les menaces sur la régie, Jérôme. Ça devient insupportable.
C'est détestable.
On va changer la régie parce que moi,
non. On ne menace personne. 3-1. Pour toi, Jérôme. Ouais.
Question, t'y rendis compte.
T'y rendis compte si tu poses une question à un supporter italien qui, dans quelques années, qui est cette plus forte?
Qui est cette plus forte?
Bon, sur la question italienne, on te laisse menacer.
Non, mais j'ai rien, je ne menace personne.
On cherche un défenseur recruté 25 millions et revendu dès l'été suivant 16 millions à l'Inter, avec qui il gagnera la Ligue des Champions en 2010. Un échec du premier
Qu'est-ce
Real.
Qu'est-ce que t'es plus fort, Cassano?
Non.
Bon, c'est beaucoup à lui en ce moment.
Qu'est-ce que Walter Samuel.
Walter Samuel. Eh si, Walter Samuel.
c'était le Tuga version AC Milan, incroyable.
Je m'en souvenais plus.
3-2.
C'est beau. Il a joué au Real, lui.
3-2. Pour Jérôme contre le reste du monde.
Allez, question petit.
Allez. J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe.
C'est Manu. Si Manu était là, il dirait et j'adore encore plus les trois en même temps.
Ouais. Alors, non, ça c'était avant, parce que là il est cramé. Écoute, il peut plus. Là.
Cette fois, c'est une question.
Que bouffer,
c'est une question bouffe, une question nourriture. Ah. Quel joueur recruté juste avant le départ de Florentino en 2006 a avoué avoir pris 14 kilos à cause du Nutella sponsor du Real à l'époque?
C'est pas vrai. Vraie histoire.
Vraie histoire.
C'est pas hasard?
Question Clément Chartres.
Ah bah non, ah, bravo Clément.
2006.
Meilleur de Clément que Louis.
Il m'a dit en 2006.
Ouais. Cassano, je pense.
Oui,
Cassano.
Incroyable.
Ah, je l'ai.
14 kilos.
Humoriste.
Humoriste. On recevait chaque mois 5 kilos de produits. En 7 mois, j'ai pris 14 kilos. Je mangeais directement dans le pot à la cuillère.
Belle carrière, Antonio Cassano.
Là, il mange plus à la cuillère. Il a la tête dans le pot.
Belle carrière.
Allez, question flash. Faubert a joué au Real. Juste avant le retour de Florentino. Mais par quel club était-il prêté?
Bordeaux.
Non. Mais non. Allez.
Oh là là. Plus au nord que.
Ah oui.
Lens.
Non.
West Ham.
Tu
veux que je perde? L'autre qui est en régie là, il est pareil. Je ne citerai plus son nom parce que ça va changer.
Petit mental comme ça,
ça va changer.
Reste concentré, Jérôme. Duga vit au Maroc, il peut faire une panenka sur la Routaine et tu pourras gagner le quiz. Question Costil.
Oh oui, Greg, il le sort.
Il est de retour.
Ça suffit.
Quel gardien qui aura connu les deux époques Pérez
Casillas
a réussi à mettre Casillas sur le banc à une époque?
Lopez.
Bravo Diego Lopez.
Bravo Jérôme. 4 partout. Ouais.
Diego Lopez, je m'en souviens pas.
Allez, on enchaîne. Question Larquier.
Francisca, code de Kinovel pour les jeunes Kinovel.
Gerbier, t'es un truand.
Et on arrête les menaces, hein, je le rappelle, sur la régie et la production de cette émission. 4 partout.
Allez, on va se plonger au début des années 2000. Quel joueur arrivé un an avant Florentino en provenance de Liverpool a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real?
Ah oui.
Oh, comment il s'appelle?
Ah ouais. McManaman.
Oh,
c'est beau. Incroyable.
C'est beau.
5 à 4.
Ça fait 20 points, ça.
La Routaine, oulala.
La bonne réponse vaut 3 points.
Combien? 3 points.
3 points. Balle de match entre Jérôme et le reste du monde.
Je te l'envoie pas, la Routaine, Steve, aujourd'hui. Parce qu'elle est contre moi.
Allez, on va faire une question con pour finir.
Qu'est-ce que vous êtes contre?
RMC. La question con.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
Un peu moins que toi.
Allez, quel joueur devenu manager et fut un énorme échec au Real? Ce joueur préfère les matériaux naturels pour sa porte d'entrée.
Alors là, c'est une question charton.
Elle est naze celle-là.
Ah ouais,
Charbonneau. Quel joueur du Real de l'époque préfère les matériaux naturels pour sa porte d'entrée?
Ah, Mitchell.
Non, genre non. Typiquement du bois par exemple.
Du bois, hein? Comment on dit bois en espagnol? Ça sais rien moi.
Bah, il est peut-être pas espagnol.
Woodgate.
Oui.
Jonathan,
Jonathan Woodgate.
Et alors, c'est dramatique. La régie a fini par céder à la pression. Les menaces payent.
Il faut parler anglais. Hein.
Les menaces de licenciement ont fait leur effet. Et c'est donc Pierre qui remporte ce magnifique cadeau.
Comment on dit bois en espagnol?
Jouez sur RMC avec le temps des cerises. L'expérience d'un café noisette aux saveurs raffinées, aux arômes intenses et irrésistiblement gourmands. Rendez-vous.
rendez-vous sur letondessoris.fr.
Bravo à Louis Gerbier, bravo au courageux Nicolas Ledru en régie, et merci à Christophe Dugarry et à Steve Savidan. Et à Clément Charton, qui reviendra d'ailleurs.
Et deuxième victoire de suite.
Exactement.
Dans Rotten. Et tout seul.
Et elle n'est pas volée, celle-là.
Ça, c'est beau.
Et tout seul. Elle n'est pas volée, celle-là. T'as raison.
Non, elle n'est pas volée. Et donc, merci Duga, merci Stevie. Vous m'avez fait rire, toi aussi. Ouais. T'as voulu ma défaite, Benoît Boutron. Et ben, on se retrouve demain. Parce que je sais que vous êtes heureux de retrouver Rotten sans flamme demain, tous les auditeurs et auditrices de Rotten sans flamme. Et ben, appelez vos amis demain, on sera encore plus nombreux. Pourquoi? Émission incroyable demain. Débrief des matchs de Ligue des Champions du soir, de Monaco, du Paris Saint-Germain, et surtout l'avant-match demain de Paris, de Olympique de Marseille contre Liverpool au stade, à l'Orange Vélodrome demain. On sera sur place, comme c'est sur RMC que ça se passe. Restez bien, écoute des RMC, et à demain 18h.
Jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.